Je vous remercie beaucoup de cette invitation. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait une confrontation entre une population étudiante et des habitants, puisque je crois que c'est le but de ces conférences, même si j'ai l'impression qu'il y a plus d'étudiants que de résidents de Montreuil. Mais la conférence avait l'air d'être annoncée dans le journal municipal à 20h. Donc bon. Je m'appelle Agnès Deboulay, je suis donc, en termes de présentation, on va faire rapide, je suis sociologue et urbaniste, c'est-à-dire que j'ai fait un doctorat d'urbanisme et avec une formation initiale en sociologie, urbanisme, économie, et que je travaille en tant que j'enseigne la sociologie urbaine essentiellement, mais je travaille aussi avec des architectes, des urbanistes dans le cadre de ces enseignements, en école d'architecture ou éventuellement dans des instituts d'urbanisme. Et j'essaie de consacrer du temps à la recherche, en particulier sur des contextes de développement dans des grandes villes. Au départ, j'ai été intéressée en fait par le Caire. J'ai fait ma thèse sur des quartiers de création populaire au Caire. Je les appelle volontairement comme ça pour éviter de les appeler quartiers informels, donc quartiers de création populaire. Suite à cette thèse, j'ai continué à travailler un peu en Égypte. Ensuite, j'ai travaillé au Liban. Dans un cadre d'échange universitaire, on a été amené à travailler en Inde durant les deux dernières années. Je fais actuellement une recherche sur les phénomènes de restructuration urbaine dans les villes internationales, en particulier Marseille, Beyrouth. Et donc je travaille sur le centre-ville de Marseille, sur la rue de la République, qui est assez médiatisée, mais j'en parlerai pas là, enfin sauf s'il y a des questions éventuellement après. Et donc j'essaie de comprendre ce qui fait le lien entre restructuration urbaine, internationalisation et aussi mobilisation des habitants, compétences des citadins, etc. C'est-à-dire qu'est-ce qui se transforme et qu'est-ce qui se reforme dans les villes mondiales aujourd'hui, à la fois dans les instruments d'intervention et dans les politiques qui sont en place, mais aussi dans les façons dont les habitants comprennent ces nouveaux enjeux, s'en saisissent ou pas. Et donc la question de la pauvreté et de la vulnérabilité, elle apparaît comme étant déterminante dans ces situations urbaines, au nord comme au sud, enfin plus au sud qu'au nord, mais il me semble qu'il y a quand même des choses assez similaires d'un point de vue analytique qu'on peut mettre en avant. J'espère que pour la présentation, ça suffit pour l'instant. Bien, alors je vais, en guise d'introduction, je vais présenter rapidement des choses que probablement certains d'entre vous connaissent déjà, mais bon, c'est les parallèles entre le phénomène de pauvreté croissante et de phénomène urbain également en expansion. Et je crois qu'il y a quand même un parallèle à faire, même s'il est difficile à comprendre et à appréhender, entre cette dimension de pauvreté quand même relativement croissante et d'un fait urbain qui est de plus en plus incontournable dans la plupart des pays, des continents. Effectivement, si la richesse des nations globalement augmente, d'un certain nombre de nations en tout cas, indéniablement, tous les indicateurs montrent que dans la plupart des pays du monde, la pauvreté, la frange de population considérée, disons comme pauvre, elle ne régresse pas, voire augmente. Donc on est là en face d'un paradoxe qui est important et évidemment qui est d'autant plus frappant dans les villes, dans les grandes villes qui croissent de façon exponentielle, d'une façon absolument inégalée dans l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il en est justement de ce fait urbain? Il est évidemment majoritaire, mais je suis frappée de voir qu'à chaque fois, je fais un petit voyage, là on a été en Égypte avec des étudiants, de voir que pendant que les heures, les minutes passent ici et qu'il ne se passe rien sur le plan démographique ou quasiment rien, bien au Caire, on a... On a 2 millions d'habitants supplémentaires, quoi. Voilà. Moi, je n'y suis pas allée depuis 2 ans. Il y a des quartiers entiers que je n'avais jamais vus, qui sont apparus, qu'on traverse, je sais. Bon. Et voilà. Et donc, des villes qui étaient des petites villes sont devenues des villes moyennes. Des villages sont devenus des petites villes. Et tout ça va extrêmement, extrêmement vite. Donc, c'est la vitesse et la rapidité de ce phénomène qui est absolument incroyable, bon, qui n'a pas cessé depuis les années 50, mais qui n'est pas non plus près de s'arrêter, qui est frappante. Donc, le fait urbain devient majoritaire. En 2030, 50% de l'humanité sera urbain, alors qu'on était à une population évidemment hyper majoritairement rurale au début du siècle dernier. Mais ces villes, surtout, sont le siège de bouleversements majeurs, puisque on est en face d'un phénomène absolument inconnu, méconnu, d'une ampleur dont on ne connaît pas finalement le devenir. Bon. En 1950, 86 villes avaient plus de 1 million d'habitants, donc 86 villes dans le monde, et maintenant on en a 500. D'accord. Donc, alors on pourrait parler aussi des villes qui ont plus de 10 millions d'habitants, des villes qui ont plus de 20 millions d'habitants, pour ne pas dire que Lyon, avec ses 1,6 million d'habitants, deuxième ville française, deuxième agglomération française, fait figure de vraiment de nain par rapport à la plupart des villes indiennes ou des villes chinoises ou des villes latino-américaines, dorénavant, dont on a à peine entendu parler, dont on connaît à peine le nom. Eh bien, 95% de l'accroissement démographique se déroule effectivement en ville et dans des villes de pays dits en développement. Donc ce phénomène-là, cette corrélation très forte entre croissance urbaine, le fait que cette croissance urbaine se déroule majoritairement, hyper majoritairement, dans des situations, dans des contextes dits de développement, doit nous interroger parce que ça pose des questions tout à fait nouvelles. Et là, je ne voudrais pas du tout avoir une vision catastrophiste, même si certains propos le laisseraient penser. C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement des choses très inquiétantes dans ce phénomène urbain proliférant, mais il y a aussi des perspectives assez réjouissante, disons qu'on en est qu'au début du phénomène et qu'il faut aussi arriver à le voir de façon peut-être à le positiver. Bon. Et alors là, de ce point de vue, je me pose un petit peu à la vision qui a été développée par Mac Davis, dont vous avez dû lire le fameux Planète des bidonvilles, qui est une vision très surplombante, qui se base presque exclusivement sur la lecture du rapport de l'ONU sur les quartiers de bidonvilles, et qui est, à mon avis, une vision faussement catastrophiste, que je ne partage pas, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on est face à des problèmes parfois insurmontables, mais il n'y a pas que des problèmes dans les grandes villes du tiers-monde, et il y a aussi des sources de transformation sociale et économique très importantes. Alors, parmi toutes ces villes, il y a des tas de mégapoles de 5 à 10 millions, de ce que aussi Mike Davis appelle les hypercités de 20 millions et plus. L'Asie aura bientôt une dizaine de villes gigantesque, enfin d'hypercité, de plus de 20 millions d'habitants, et puis des villes qui sont des lieux de grande pauvreté, là par contre, émergent comme pôles urbains. Ce n'est pas l'industrialisation qui en a été à l'origine, mais pourtant Bamako, Nouakchott, Ibadan sont des pôles urbains bien supérieurs à Manchester, même à la grande époque, ou à San Francisco aujourd'hui. Bien. Alors, je vais essayer d'avoir une approche un petit peu nuancée du phénomène d'urbanisation et également de pauvreté et de vulnérabilité dans les villes mondiales. Même si je dois rappeler que presque 80% des résidents des pays les plus pauvres habitent dans des quartiers considérés comme des quartiers de bidonville, etc. Effectivement, c'est loin d'être négligeable. Je pense qu'il faut donner une approche nuancée du phénomène. Alors, pour préciser un petit peu ça dans l'introduction, j'ajouterais que la globalisation, le phénomène de globalisation qui produit ces villes mondiales, a au moins deux facettes qu'il ne faut pas négliger. D'une part, d'un côté, la prolifération des bidonvilles, ou des semi-bidonvilles, de l'habitat dit précaire, et par ailleurs, des formes de concentration économique très forte, ainsi que la recherche de nouveaux lieux de profit par des entrepreneurs de type varié, que ce soit des entrepreneurs strictement industriels ou du secteur immobilier. Et que donc, ce phénomène de globalisation a au moins ces deux facettes contradictoires, antagoniques, qui sont présentes et qui sont hautement conflictuelles dans les villes mondiales. C'est-à-dire qu'on a effectivement un habitat précaire qui a tendance à augmenter très très vite, et en parallèle, des fractions de population qui sont en quête de plus-value foncière et immobilière et de plus-value tout court et qui, par tous les moyens... Et donc ces tendances s'opposent au sein des villes mondiales et c'est ça dont je vais parler un petit peu. Alors ça a deux conséquences. D'un côté, on a une valorisation économique continue des zones centrales dans les villes mondiales. Les zones centrales des villes mondiales, même dites de périphérie, deviennent des lieux très très convoités. C'est-à-dire que on a dans les villes comme Bombay, Karachi, Téhéran, etc. Bon, c'est pas les plus petites. Des valeurs foncières et immobilières qui sont parfois égales à celles qu'on va trouver en région parisienne. avec pourtant 50 à 70% de la population qui a des revenus de moins de $100 par mois, quoi. Bon, on est plutôt autour de 20 à 50, quoi. Donc, cette valorisation économique continue des zones centrales et péricentrales également devient là aussi un fait mondial. Et je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que les alliances entre des forces économiques diverses et certaines structures étatiques ont des effets de plus en plus notables de déplacement des habitants, de pression continue sur un certain nombre d'habitants parmi les plus fragiles. C'est pour cela que je préfère parler de vulnérabilité que de parler simplement de pauvreté. Parce que je pense que ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont on peut caractériser les formes d'habitat et les conditions de vie dans les villes mondiales, y compris les plus pauvres, c'est que effectivement, il y a une population, une pauvreté structurelle très forte, mais il y a également une fraction non négligeable de personnes qui sont vulnérables et vulnérabilisées en quelque sorte, en raison même de la configuration des villes dans lesquelles ils habitent et en raison même de la position mondiale de ces villes. Bien. Et de l'autre, alors j'ai dit qu'au moins deux tendances s'opposaient. Et de l'autre, c'est que effectivement, dans ces villes mondiales, dans certaines de ces villes mondiales, on a des organisations civiques, de droits humains, diverses, qui prennent en main la question et qui font de la résorption des bidonvilles et de la grande pauvreté un cheval de bataille. Des mouvements sociaux s'emparent du sujet et donc. Par exemple l'Asie et nous apporte vraiment une leçon importante du point de vue des combats sociaux et des combats urbains. Hein. Il y a notamment plusieurs organisations d'ONG à l'échelle nationale, notamment en Inde, qui ont une réflexion, un diagnostic sur la situation et une capacité d'analyse et de proposition qui n'a quasiment aucun équivalent à mon sens en Europe et qui mérite d'être absolument convoquée. Donc le phénomène de globalisation, de mondialisation, dans les villes, il a quand même des aspects qui ne sont pas que négatifs. Effectivement, il exerce une pression continue sur une fraction de plus en plus importante de la population. Alors, je citerai quelques exemples pour éviter d'être trop vague, mais un de mes chevaux de bataille, un de mes dadas en ce moment, c'est de regarder les autoroutes. Les autoroutes, c'est un objet matériel absolument inintéressant pour les architectes, par exemple, c'est un truc ils s'en foutent complètement. Pour les ingénieurs, c'est un objet qu'ils fabriquent, mais en tout cas, on n'étudie pas les autoroutes. Alors, on se rend compte que dans la plupart des villes mondiales, les autoroutes, on en fait constamment. À Pékin, on est à son 8e périphérique. Karachi est en train de construire des autoroutes à tout va. À Téhéran est absolument strié. Je crois qu'il y a 500 km d'autoroute à Téhéran. On fait tout en voiture. D'ailleurs, les films iraniens le montrent bien. Hein, on se passe toujours en voiture quasiment, pas de peine en particulier. Mais et les autoroutes, c'est typiquement un objet qui crée une production spatiale, une production urbaine qui crée du bien-être pour certaines catégories de la population, mais qui temporairement en tout cas, segmente l'espace, crée aussi et augmente les formes de vulnérabilité, puisqu'il va provoquer des déplacements de population, il va séparer les gens de leur lieu de travail, etc. D'accord ? Et ça se produit à toute vitesse, c'est-à-dire quand vous avez le périphérique du Caire qui se réalise, le premier périphérique, puisque j'ai appris la semaine dernière qu'un deuxième était en construction, c'est quand même 72 kilomètres de route avec 80 mètres d'emprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas calculé combien de personnes déplacées ça représente, mais c'est probablement quelques centaines de milliers, peut-être 500 000, je ne sais pas. Personne n'a calculé vraiment ça. Ça serait intéressant de le faire. Donc je reviens à la pauvreté, mais j'ai fait ce petit détour introductif pour montrer que la question de la situation urbaine, des urbains, des citadins dans les villes mondiales est loin de se résumer simplement à la question de la pauvreté et qu'il faut regarder la pauvreté en tant que processus aussi de transformation dans des contextes urbains aussi en forte mutation. Alors, revenons là d'abord donc sur quelques définitions ou quelques approches de la pauvreté. J'espère que je ne vais pas être soit trop technique, soit pas assez, ça dépend du public. Alors, comment définir la pauvreté? Alors, on a les définitions de la pauvreté dans tous les rapports produits par les institutions internationales, notamment, sont très techniques, très statistiques, très quantitatifs. En général, ils s'attachent à décrire une pauvreté, une fraction de population considérée comme pauvre, parce qu'elle n'a pas accès à un certain nombre de biens essentiels, et cette pauvreté, elle est décrite par certains comme étant une pauvreté, disons, chronique, c'est-à-dire est pauvre, considérée comme pauvre dans cette acception, toute personne qui va avoir à peu près ce même niveau de vie, donc très bas, pendant au moins 3 années consécutives, et donc ça concerne en gros les ménages qui sont en dessous d'une certaine ligne de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le revenu suffisant pour s'acheter des biens de première nécessité, par exemple. Donc, dans tous les travaux, dans ces approches quantitatives, dans ces approches par statistiques, la pauvreté renvoie à la question du manque et de la carence. Donc, manque et carence, à la fois en termes de quantité de biens dont qu'on peut se fournir sur le marché, mais aussi, il faut dire que de plus en plus d'approches s'intéresse au manque et à la carence et aux carences, pas seulement matérielles, mais aussi immatérielles. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est aussi éventuellement ne pas avoir accès à un certain nombre, de biens collectifs, comme la santé, la culture, etc. Bien. Alors, je ne sais pas si certains ont entendu parler de ça, mais je vais aller vite. On parle évidemment souvent des seuils de pauvreté. Bon, je ne reviendrai pas à cette définition assez rigide, etc., mais qui sert de terme de référence, mais pas plus. Mais on a surtout aussi des indicateurs de plus en plus riches et affinés, notamment ceux qui sont développés par le Programme des Nations Unies pour le Développement et qui a notamment un indicateur qui s'appelle l'indicateur de pauvreté humaine, qui est construit différemment suivant qu'il s'agit de pays riches ou de pays pauvres. Cet indicateur de pauvreté humaine définit comme pauvre la pauvreté comme étant, indépendamment des questions de revenus, aussi la probabilité de mourir jeune, en l'occurrence dans certains pays c'est avant 40 ans, le taux d'analphabétisme, et les carences en termes de conditions de vie, accès aux services sanitaires, eau potable, sous-nutrition, etc. Alors j'insiste là-dessus parce que l'accès aux services sanitaires, peut-être que je dis des évidences, mais à chaque fois qu'on va quand même dans un pays émergent ou pas émergent ou qui cherche à se développer, etc., on est quand même frappé de ce qui paraît ici être totalement évident dans une ville et en place. Je dirais, à savoir les infrastructures sanitaires n'est pas précisément en place. Je pense en particulier aux égouts ou à toute forme de collecte des eaux usées. Et on se rend compte que la plupart des projets de développement dans les villes mondiales ou dans les petites villes, là pour le coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est essentiellement tirer des tuyaux d'assainissement sanitaire. Et c'est très compliqué, c'est-à-dire ça ne va pas de soi. Là, on a travaillé sur un projet en Égypte avec des étudiants dans une ville moyenne. Où c'était les plans n'étaient pas corrects, il y a des problèmes de mise en cohérence des différents organes de l'administration, ce qui paraît simple et en fait relativement compliqué. Il y a ensuite le problème de connexion secondaire, qui va payer, est-ce que tout le monde peut payer, etc. Est-ce que c'est bien dimensionné? Et on se rend compte qu'au bout de 10 ans, vu la croissance démographique, c'est mal dimensionné, donc ça explose, donc les rues sont pleines de etc. Donc ce qui paraît être vraiment en place, c'est-à-dire quelque chose auquel on ne pense jamais, mais qui fait partie d'un confort et d'un bien-être quotidien évident en termes de biens collectifs, n'est pas en place dans la plupart de ces villes mondiales. En tout cas, dès qu'on arrive dans les zones périphériques. Donc ça me paraît important de le souligner. Et finalement, ceux qui travaillent dans le développement se confrontent souvent à des questions très, très prosaïques. C'est-à-dire faire des toilettes, des égouts, c'est souvent... Bien. Cet indicateur de pauvreté humaine, ou toute façon de penser la pauvreté dans ces termes, suppose que on voit la pauvreté en termes, certes individuels, qui est pauvre éventuellement, mais aussi en termes collectifs, sachant que on a des quartiers, on a des zones entières d'habitation où les communautés ou les habitants sont plus ou moins exclus de l'accès à ces services collectifs, étant de par leur localisation, etc. Donc, il n'y aurait pas au fond de pauvreté en soi ou pour soi, mais seulement de pauvreté relative en fonction des situations locales et bon, géographiquement situé. Alors là, je voudrais convoquer un auteur que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est Amartya Sen, qui est un économiste indien, qui a été prix Nobel d'économie. Et dont un certain nombre d'ouvrages sont traduits en français. Et Amartya Sen a commencé par des travaux sur la famine en Inde et la façon dont les famines adviennent, en se rendant compte que finalement la famine c'est pas un phénomène simplement naturel. Enfin, la famine est rarement causée par une série de phénomènes naturels, mais par une conjonction de facteurs sociaux, mais aussi la façon dont les populations sont organisées, mobilisées pour résister éventuellement à des variations dans leurs revenus ou dans leur mode d'accès aux ressources. Sen dit que c'est pas nécessairement la pauvreté en soi qui est intéressante à considérer, mais le concept le plus pertinent serait d'abord l'inadéquation des ressources. Donc c'est plus l'inadéquation des ressources que leur faiblesse qui paraît intéressant pour commencer à travailler sur ces questions. Donc il dit avoir un revenu inadéquat, ce n'est pas avoir un revenu inférieur à un seuil de pauvreté fixé de l'extérieur, c'est avoir un revenu inférieur à ce qu'il faut pour assurer un niveau déterminé de ce qu'il appelle de capacité. Alors, Amartya Sen parle de capacité ou de capability en anglais, c'est-à-dire la capacité, c'est l'ensemble des fonctionnements qu'un individu est capable d'accomplir et parmi lesquels il peut choisir. Alors, l'ensemble des fonctionnements qu'un individu est capable d'accomplir et parmi lesquels il peut choisir. Il prend l'exemple de la nourriture. Disons qu'il y aurait au moins trois configurations, si je me souviens bien. Alors, la première, c'est le jeûneur, celui qui a des ressources conséquentes, mais qui choisit de jeûner. Bon, c'est une capacité. Il a la possibilité de manger, mais il a décidé de jeûner. Donc, il exerce sa liberté. Bon, le deuxième, c'est celui qui peut manger à peu près à sa faim et de façon à peu près régulière, mais sans faire d'excès et bon, en faisant attention à ce qu'il consomme. Bon, ça renvoie à probablement ces 47% de ménages, je disais ça récemment dans les bidonvilles dans les townships sud-africains qui mangent une fois par mois ou des fruits et des légumes, par exemple. Bon, là, on n'est pas dans une situation de manque absolu, mais on est dans une situation de nourriture extrêmement contrôlée. Et puis, le troisième cas de figure, c'est on ne peut même pas avoir accès à un repas par jour ou, de capacité, c'est que de toute façon, on ne peut pas s'assurer l'accès, un accès même pas convenable, enfin, un accès pas suffisant à une ration calorique permettant de tenir debout, quoi. Donc, on aurait des variations de cet ordre-là, mais la capacité, elle s'appréhende comme ça, c'est-à-dire que c'est en fonction des revenus disponibles, de ce dont on a besoin pour fonctionner correctement par rapport à un certain nombre de normes économiques, biologiques et sociales, mais également, là-dedans, il y a une part de liberté de l'individu de pouvoir choisir parmi un certain nombre de choses. Et de ne pas pouvoir choisir du tout quel type de soupe on va pouvoir manger le jour d'après, c'est pas complètement avoir une capacité optimum, par exemple, même si on mange de la soupe. Bon. Cette question d'adéquation ou d'inadéquation des ressources est peut-être renvoyée aussi beaucoup à la question des inégalités, puisque on perçoit directement ou indirectement la situation dans laquelle on est et notre capacité ou capacité d'accéder à certains biens en fonction de ce que d'autres peuvent consommer ou ne consomment pas. Donc la position des individus dans la société, leur position relative, influence nécessairement la vision qu'ils vont avoir de ce dont ils ont besoin pour vivre ou pour survivre, ou pour vivre bien. Pour vivre bien. Bien. Alors, autre chose, sans être trop technique, je vais donner peut-être un exemple français qui me semble assez parlant et que j'ai lu dans Économie et Statistiques il n'y a pas très longtemps. Ça nous donne à réfléchir sur donc cette question de pauvreté, capacité par Amartya Sen. Ça nous donne à réfléchir sur la relation entre la pauvreté monétaire et la pauvreté vécue, c'est-à-dire la pauvreté perçue simplement en termes d'argent disponible et la pauvreté telle qu'elle peut vraiment être vécue par les individus. C'est pas exactement la même chose. Et dans cet article d'économie et statistique, qui a été fait à partir d'analyses françaises sur l'accès aux ressources, justement, montrait que en France, plus de 11% de la population ressortait, disons, de la pauvreté dite monétaire, hein, en termes de ressources. Bon. 11,7%. Et que c'était un chiffre qui avait beaucoup augmenté durant ces dernières années. On est passé de 3-4% de la population dans les années 80 considérée comme pauvre du point de vue de la pauvreté monétaire, c'est-à-dire des revenus disponibles, à plus de 11% aujourd'hui. Mais, quand on interroge des gens sur la façon dont ils gèrent leurs ressources et sur s'ils sont satisfaits des ressources qu'ils ont pour pouvoir accéder à des biens première nécessité ou de seconde nécessité, disons. Donc quand on interroge les gens en fait sur leur capacité, enfin sur leur capacité par rapport aux revenus, on se rend compte que plus d'un tiers des ménages interrogés, plus d'un tiers, se disent être en difficulté pécuniaire, avoir du mal à gérer leurs revenus, avoir du mal à gérer la fin du mois, en gros, et donc il y a vraiment un décalage important entre la pauvreté matérielle qui est objectivement définie en termes de seuil, etc., et la pauvreté telle qu'elle est vécue, représentée, etc., et qui porte parfois sur la sensation de connaître de connaître une privation de choses qui sont pas nécessairement, qui sont pas toujours absolument, d'ailleurs complètement dites nécessaires, etc. Bon. Bien. Alors, pour finir sur ces approches, on a vu donc pauvreté en tant que carence, pauvreté et inadéquation des ressources, pauvreté et privation de capacité ou capacité. Et puis, évidemment, le gros chantier qui est celui de la relation entre pauvreté et inégalité. Hein, puisque il est clair que à plein d'endroits, la pauvreté est construite par rapport à des inégalités socialement données à un moment donné dans la société. Mais je dirais aussi que il y a autre chose dans... Ah oui, alors justement, Sen, pour finir là-dessus, dit que c'est à partir des inégalités sociales structurellement produites que se manifestent les pauvretés socialement construites. C'est-à-dire que préexistent à la pauvreté les inégalités. Les inégalités sont structurellement produites et c'est à partir de ces inégalités sociales que se manifestent les pauvretés qui sont, elles, socialement construites. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, pourquoi socialement construite? Pourquoi la pauvreté est socialement construite? Qu'est-ce que ça veut dire? Et à quoi ça renvoie? Alors, la pauvreté renvoie à un ensemble de carences et de manques, mais elle est liée aussi au fait de se désigner ou d'être désigné comme pauvre. Bon. Alors là, ça renvoie notamment aux premiers travaux sur la question, qui sont des travaux de Georges Simmel, hein, dans les années 20, même en 1908, je crois. Enfin bon, le pauvre, dit Simmel, c'est celui qui est défini comme tel dans les catégories de l'assistance. Donc par les assistantes sociales, par les professionnels qui gèrent ou qui sont censés gérer la pauvreté. Donc dans les catégories d'assistance sociale ou publique. Donc en Europe, aujourd'hui encore, la pauvreté, ou disons celui qui est désigné, la désignation de pauvre, c'est celle qui ressort des catégories de l'assistance. Bon, de l'assistance publique en général. Bon. Et donc, on voit bien que là, on est dans une pauvreté qui est socialement construite. En tout cas, parce qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'acteurs publics qui ont désigné des seuils, qui ont défini des seuils, qui ont dit que certaines personnes rentraient en dessous de ces seuils, qui ont décidé qu'on donnerait des aides à certains types de personnes et pas à d'autres, etc. Hein? Bien. Donc, c'est le fait de se situer au-delà d'une certaine norme ou d'un seuil qui va construire la pauvreté à partir d'une situation d'inégalité qui, elle, par contre, est objective. Elle existe. Je veux dire, c'est une donnée. Elle change tout le temps, mais elle existe. Bon. Donc, cette construction sociale, là où je veux attirer votre attention, c'est que cette construction sociale, elle s'élabore à partir d'une approche qui est une approche normative. c'est une approche descriptive, on fabrique des catégories, hein, dans lesquelles on met les plus ou moins pauvres, les très pauvres, les moins pauvres, etc. Mais c'est une approche également normative, puisque elle dit que certains ont des droits qui sont associés à leur position, à leur définition, et également, elle entraîne certaines dérives éventuellement, des jugements de ceux qui sont considérés comme pauvres. Elle a, bon, rappel historique, mais enfin bon, vous êtes pour la, enfin, peut-être le pauvre dans les, bon, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, était, enfin jusqu'à quelques siècles, était enfermé. Le pauvre représentait en France et en Europe un danger social, une menace éminente, hein, dont Robert Castel parle en termes de, enfin, de fléau du paupérisme. Hein. On parle du fléau du paupérisme jusqu'au siècle dernier. Et ce qu'il appelle lui aussi la question sociale, autour de l'industrialisation, c'est celle précisément de l'afflux de populations en charge de, en quête de travail, mais non stabilisées, de populations pauvres et errantes, etc. Donc, c'est cette, l'approche normative et catégorielle de la pauvreté est liée vraiment au fait que la pauvreté a toujours été, dans toutes les sociétés, plus ou moins perçue comme une menace, hein, une menace de déstabilisation de ces sociétés. Et donc c'est, nous dit Castel aussi, l'aporie, enfin c'est-à-dire c'est l'aporie fondamentale contre lesquelles toutes les sociétés viennent se heurter. Alors, qui est traitée, bon, moi je dirais que cette aporie est d'autant plus forte aujourd'hui, enfin elle est encore plus forte aujourd'hui probablement qu'elle ne l'était, elle est d'autant plus paradoxale qu'elle est présente dans des, et qu'elle cohabite avec des situations d'extrême richesse et d'enrichissement constant d'un grand nombre de sociétés. Mais bon. Alors, et enfin, je dirais pour finir là-dessus que deux choses. Ces catégorisations de la pauvreté, elles varient beaucoup suivant que l'on est dans un pays qui est défini par un tronc commun, un socle stable qui est celui du salariat, ou selon qu'on est dans des pays dans lesquels le salariat est minoritaire. Or, il faut faire attention au fait que très souvent, la pensée que l'on a de la pauvreté ou de la richesse, etc., notre pensée sociale, elle est structurée, enfin en Europe, mais même puisqu'elle s'exporte, elle est quand même largement structurée en fonction du salariat. Or, le salariat est minoritaire dans le monde, c'est-à-dire que dans la plupart des sociétés en expansion démographique, urbaine, etc., et économique aussi aujourd'hui, le salariat n'est pas majoritaire, c'est à la limite. En Asie, 60% de la main-d'œuvre environ et travaille dans le secteur dit informel. En Amérique latine, c'est entre 60 et 75%. En Afrique, c'est autour de 40-50%. On pense que 90% de la croissance future des sources d'emploi va être dans le secteur informel dans les années à venir en Afrique, etc. Donc, quand on dit qui est pauvre, etc., définir la pauvreté par rapport aux catégories de l'assistance n'a plus grand sens aujourd'hui. Hein. Enfin, en tout cas, ça a un sens en France, encore aujourd'hui, peut-être pas pour très longtemps, mais ça n'a pas, c'est pas un sens universel. Et donc, tout ça doit être vraiment relativisé. L'autre chose, c'est que ces différentes définitions de la pauvreté, à ces différentes définitions, moi j'ajouterais quelque chose d'autre, qui est finalement une sorte d'auto-définition, hein, d'auto-définition de la pauvreté. On a des définitions statistiques qui sont en général extérieures, qui sont faites par des grosses enquêtes quantitatives, etc. Et on demande rarement aux gens ce que eux pensent de leur situation et comment ils se définissent. Or, ça pourrait quand même nous aider à voir que effectivement, la pauvreté matérielle, monétaire, ne correspond pas nécessairement à la pauvreté vécue, représentée, et que au sein de catégories qui sont uniformément décrites comme pauvres, je pense par exemple à tous les habitants des bidonvilles, on pense systématiquement que les habitants des bidonvilles sont tous pauvres, on verrait que au sein de ces quartiers, il y a aussi des riches, des petits riches ou des moyens riches, mais il y a aussi des gens qui vivent bien et qui ont une fonction de régulation importante dans ces quartiers. Il y a aussi des classes moyennes, il y a de plus en plus de gens des classes moyennes qui habitent les quartiers irréguliers, informels, illégaux dans les villes du Sud. Et c'est cette diversité qui est aussi source de richesse, enfin de richesse, oui, de richesse sociale, et qui est productrice aussi d'activité. Et si on passe sur cette diversité, on néglige aussi de voir des perspectives d'avenir intéressantes. Donc, c'est important de réfléchir à la pauvreté, effectivement, du double point de vue, de la définition, des définitions statistiques, extérieures, à partir aussi, je pense, du cadre de réflexion d'Amartya Sen, qui, à mon avis, est quand même le plus élaboré aujourd'hui, et aussi vu de l'intérieur, à partir de ses autodéfinitions, mais également des hétérodéfinitions. C'est-à-dire que si j'habite dans un quartier, dans une cité ici, on fait une enquête depuis pas longtemps là, à Gennevilliers avec des étudiants. Les étudiants sont tous très surpris de voir que les gens n'arrêtent pas de se désigner les uns les autres, mais on est dans des systèmes d'hétéro-désignation, c'est-à-dire je suis un peu mieux que mon voisin, je suis un peu moins bien socialement. Mais on se définit soi, et on se définit soi par rapport aux autres avec qui on cohabite, enfin, de façon proche. Donc tout ça n'est pas sans implication en termes de politique publique et en termes de politique urbaine aussi. Alors, je vais réélargir un tout petit peu le cadre, pour parler des raisons pour lesquelles on constate que les villes mondiales sont de plus en plus grosses, enfin qu'un certain nombre de villes ont grossi de façon démesurée, mais surtout que on a une population dite pauvre, dans ces villes, et que c'est un phénomène évidemment de plus en plus marquant, qui mobilise toutes les institutions internationales, même si leurs succès sont extrêmement limités. Alors, d'où ça vient? C'est pas très très innovant ce que je vais raconter, hein. Si on prend le cas de l'Amérique latine, on voit que d'autres pays qui ont une longue tradition urbaine, hein, les pays asiatiques notamment, etc. On voit que toutes les politiques publiques dans les pays dits en développement, et en partie aussi en Europe quand même, ont été orientées à travers ce qu'on peut appeler le consensus de Washington, c'est-à-dire déréglementation, privatisation, transfert de ressources vers le secteur privé, etc. Et donc ça s'est manifesté en particulier dans la plupart des pays endettés par la mise en place depuis les années 80 de plans d'ajustement, de programmes d'ajustement structurel. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on parle souvent des plans d'ajustement structurel en oubliant de voir que c'est l'ensemble des dispositifs de régulation publique et d'intervention en matière sociale et urbaine qui ont été considérablement altérés, modifiés depuis 20 ans, y compris dans les pays qui avaient une tradition sociale très ancrée. Je vais citer quelque chose qui m'a frappé là récemment, parce que j'ai parlé pas mal avec des collègues de la Villette. Il y a beaucoup d'enseignants étrangers, d'étudiants étrangers aussi, et beaucoup d'ateliers qui se font partout dans le monde, plein de coopérations internationales. Et bon, les collègues latino-américains, par exemple, parlent tous de la violence des villes dont ils proviennent, et de la violence de toutes ces villes qui étaient tranquilles il y a 20 ans. Mexico n'a jamais été tranquille, mais devient très très violent. Quito, Lima. Lima, une étudiante me disait, à Lima, on ne va plus jamais au centre, parce que le centre est devenu dangereux. Le centre est habité par les pauvres. On ne se rend plus dans les centres-villes. Bien, ça c'est des phénomènes qu'on connaît en Afrique du Sud, mais qu'on n'imagine pas dans les villes latino-américaines. Et ces phénomènes-là sont quand même incroyablement liés d'un point de vue temporel. Alors, il n'y a peut-être pas de causalité immédiate, mais en tout cas, d'un point de vue temporel, ils sont incroyablement liés à la mise en place de ces plans d'ajustement structurel, mais aussi à la volonté des gouvernements d'obtempérer sur les décisions du FMI, de la Banque mondiale et autres, de mettre en place des systèmes de déréglementation, de dérégulation et de transfert vers le privé d'un certain nombre de ressources, en pensant assainir la situation d'un point de vue économique. Et en fait, si on prend par exemple le cas de Bombay, on voit que le cas de Bombay est très étonnant, parce que l'Inde, bon, a une longue tradition manufacturière, notamment cotonnière, etc. À Bombay, il y avait des milliers d'industries cotonnières jusqu'à il y a 20 ans. Depuis une vingtaine d'années, Là aussi, on a dégraissé le mammouth, et en particulier l'industrie, et on assiste en Inde sous l'effet à peu près des mêmes raisons. À ce que certains appellent une informalisation croissante du secteur économique, c'est-à-dire que les industries cotonnières ont licencié du personnel, donc il n'y a pas simplement, ça n'arrive pas qu'en Europe, on licencie quasiment tout leur personnel après une grande grève dans les années, milieu des années 80, qui est une grève qui a duré un an, hein, quand même, je dois dire. Les industries ont fermé pendant un an dans le centre-ville de Bombay. Et les ouvriers tenaient par solidarité, notamment de caste. Hein. Ça, c'est le paradoxe de la caste, mais... Il reste une centaine peut-être d'industries qui sont debout. Tout le reste de la production textile a été déporté vers des zones périphériques, des zones de bidonville, donc a été transféré dans des microstructures de production en sous-traitance, etc. Donc on a vraiment là, dans tous les secteurs manufacturiers qui sont des secteurs de moindre plus-value par rapport à d'autres secteurs beaucoup plus rentables qui sont la high-tech, florissante en Inde, ou l'immobilier tout simplement, eh bien les entrepreneurs ont les mêmes soucis qu'ailleurs, c'est-à-dire de faire place nette et de dégager une main-d'œuvre qui devenait un peu trop demandante et regardante sur ses conditions de travail. Bombay, comme d'autres grandes villes indiennes, ont vu le chômage augmenter incroyablement, et aussi la main-d'œuvre dans le secteur informel, elle également beaucoup augmenté depuis la mise en place de ce transfert d'activité, de cette informalisation, qui se produit quasiment partout. Donc il y a quand même quelque chose d'assez manifeste dans ces villes mondiales, c'est que la globalisation, elle arrive par le haut. Certes, on connaît la globalisation à travers les firmes transnationales qui concentrent leur pouvoir de décision dans certaines grandes villes, mais aussi dans la plupart des grandes villes mondiales secondaires. Mais on a aussi une informalisation et une globalisation par le bas qui se manifeste différemment, mais qui est productrice de pauvreté. Alors, les politiques publiques par rapport à tout ça, elles ont quand même un peu de mal à se mettre ou à se remettre en place et à lutter contre la pauvreté. Donc, dans les années 80, on s'est dit, les politiques publiques et urbaines, en gros, ont baissé les bras dans la plupart des pays du Sud par rapport à ce sujet. On n'intervenait plus en matière sociale, ou de moins en moins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent transféré l'intervention sociale sur l'urbain. À défaut de pouvoir vraiment mobiliser des moyens d'action conséquents pour résorber la pauvreté ou pour contrecarrer des phénomènes très très lourds d'accroissement de la population fragile, on a concentré les efforts sur des secteurs, sur des territoires, un peu comme on l'a fait en France avec la politique de la ville. Je fais un parallèle un peu osé, mais on a déterminé des territoires d'action. Et on a croisé les politiques urbaines, certaines politiques urbaines et des politiques sociales. Mais c'est resté localisé, fragmentaire, sans pouvoir véritablement monter en puissance. Et on a mis en place, dans la plupart des pays qui ont connu des ajustements divers, et notamment une présence continue de la Banque mondiale, des filets de sécurité, ce qu'on a appelé les filets de sécurité, qui permettaient, comme dit une collègue, de pas mourir tout de suite, mais de quand même continuer à survivre un certain temps face à l'appauvrissement généralisé, quoi. Bien. Alors, vous avez peut-être entendu parler des récentes conférences des Nations Unies qui mettent en avant à nouveau, maintenant, la réduction de la pauvreté à l'ordre du jour, après 20 ans. 20 ans durant lesquels il a été question de pauvreté, mais on n'a quand même pas jamais lutté de façon directe sur la pauvreté. On a eu quelque chose, une production d'une espèce de nouveau discours international qui s'appelle les objectifs du millénaire. Hein, c'est les objectifs du millénaire, c'est l'ONU qui a écrit ce truc, c'est les Millennium Goals, qui sont réduire de moitié à l'horizon 2015 la proportion de gens dont le revenu est inférieur à $1 par jour. Bon, alors je vous laisse méditer cette phrase, parce que là, on est, on le voit quand même, dans une volonté tout à fait louable, mais qui favorise pour le coup une vision très très homogénéisante de la pauvreté, c'est-à-dire avoir $1 par jour en Inde Bon, c'est déjà pas génial, vraiment. Mais bon, en France, encore moins probablement, et etc. Donc, en tout cas, on a cet objectif-là qui est vraiment, vous voyez, qui revient à des seuils très très rigides, hyper rigides là pour le coup, et à des objectifs universalisants dont on doute qu'ils puissent être atteints. Alors, on voit bien que cette question reste plus jamais à l'ordre du jour. Naviguant entre trois conceptions aussi qui sont toujours présentes et que Bruno Lautier a explicité dans un certain nombre de ses travaux. Une première conception, évidemment présente en ville, qui est une conception assistentielle et répressive, qui est une conception qui a toujours existé dans l'histoire et qui est aujourd'hui très présente aux États-Unis, qui est notamment bien décrite par Loïc Vacan dans ses travaux sur le ghetto noir américain. On est passé de l'assistentiel n'existe plus dans le ghetto noir, mais on est dans le répressif, mais l'assistentiel existe. En fait, Loïc Vacan montre que l'assistentiel existe encore. S'il permet aux femmes noires, notamment célibataires, qui ont des enfants et qui les élèvent seules, ça assure à peu près un dixième de leur revenu mensuel. Je veux dire, les aides sociales assurent environ un dixième ou un vingtième, je ne sais pas, de leur revenu mensuel. C'est-à-dire quelque chose qui permet, qui est vraiment de l'ordre de ne pas mourir de faim. Et après, débrouillez-vous. Et là aussi, informalisation croissante du travail, de l'accès aux services, etc. Donc conception assistentielle répressive avec l'enfermement comme réponse à la pauvreté. Bon. Une politique caritative, bon, qui a également toujours, qui a une tendance, qui a toujours existé, qui existait aussi bien dans l'islam que dans la chrétienté, que dans les, bon, les, etc., qui commence et qui débute dans les organisations religieuses et qui se transfère progressivement dans les institutions laïques. Par une prise en charge différentielle de la pauvreté, qui continue à exister, évidemment, hein, plus que jamais, donc qui est présente par, en tâche de léopard. Disons que Bruno Lautier a écrit un autre article où il parle de, je sais pas, de la fragmentation et de la peau de léopard. Donc on est un peu dans un système de peau de léopard. On a un peu de répressif, un peu de caritatif, et une conception plus moderne ou technocratique qui vise, elle, à corriger les situations de pauvreté, et qui peut se traduire dans des politiques sociales ou familiales ou dans des politiques urbaines, mais qui fonctionne par à-coup en fonction des impératifs idéologiques du moment et en fonction aussi des nécessités émises par les dirigeants ou par ceux qui s'occupent de définir ces politiques. Bon. On a aussi en parallèle, on pourrait dire deux mots sur le fait que par rapport à ça, certains parlent de plutôt mettre en place des politiques de gestion préventive des risques. Alors, on en arrive finalement à la deuxième partie que je voulais traiter, qui est celle de la vulnérabilité, et en particulier vulnérabilité dans les villes. Évidemment, si on parle de stratégie de gestion préventive du risque, là, on est dans un glissement, pas seulement sémantique, mais un glissement de la pensée sur le traitement de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on commence à penser que ce à quoi il faudrait peut-être s'attaquer par rapport à la pauvreté dans les villes notamment, c'est au risque de perte de ressources, au risque d'affaiblissement sanitaire, au risque écologique, etc., divers, auxquels sont confrontées les populations dans les villes, en particulier dans les villes mondiales. Alors, je voudrais dire à ce propos, avant de passer à la question de la vulnérabilité, que en fait, il est probable que la pauvreté est moins forte en ville qu'à la campagne, bon, dans un certain nombre de pays, notamment des pays dits en développement, etc. Bon. On crève moins de faim, c'est sûr, en ville qu'à la campagne, notamment lors des migrations rurales urbaines, etc. Si on migre, c'est bien que d'ailleurs on y trouve quelques avantages pécuniaires en général. Mais donc l'accès aux ressources est quand même plus grand, ça c'est évident. Mais on voit également, certaines études montrent que la vulnérabilité des populations est plus grande et plus importante dans les villes qu'en milieu rural. Et pour quelle raison ? C'est parce qu'en fait, je dis l'accès aux ressources, mais je suis bête. L'accès aux ressources de financement, c'est-à-dire l'accès au travail est plus facile en ville. Mais l'accès aux autres ressources est beaucoup plus compliqué. L'accès au logement, évidemment, bon, on le voit ici, puisque Paris est une ville mondiale dans laquelle il est extrêmement difficile de se loger, et de plus en plus. L'accès aux biens publics et de consommation collective qui sont plus onéreux qu'à la campagne, bon, même s'ils sont plus nombreux. C'est vrai qu'on a globalement plus d'électricité en ville qu'à la campagne, mais il faut aussi la payer plus cher. Il y a plus d'hôpitaux, mais leur accès est souvent demande beaucoup d'argent. Et d'avoir de la famille qui vient vous apporter de quoi vous recoudre, le cas échéant aussi, dans un certain nombre de pays, si vous en avez besoin, vous nourrir. L'accès... Il y a un certain nombre de cas de figure bon, un peu extrêmes. Au Bangladesh, on montre que les enfants qui travaillent ou les jeunes gens qui travaillent, en particulier les plus vulnérables, doivent payer à des mafias locales des taxes pour avoir le droit de travailler, etc. Donc, beaucoup de choses se monnaient de plus en plus cher, évidemment, dans ces villes, bon, d'autant que ce sont des villes mondiales, donc qui sont en compétition avec d'autres intérêts, avec des gens qui ont des revenus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés, qui tentent à faire monter ces prix de façon importante. Donc voilà, il faut retenir cette idée que si la pauvreté est probablement moins importante en fait qu'en ville qu'à la campagne, la vulnérabilité des populations est plus importante. Et je vais détailler quelques types de vulnérabilité qui peuvent nous intéresser, enfin moi qui m'intéresse en tout cas, en ville. On peut distinguer... Excusez-moi. D'abord, je vais définir peut-être la vulnérabilité. Enfin, donner une définition. La vulnérabilité, c'est l'exposition au risque, au choc, au traumatisme, aux pressions, etc. Et donc, c'est... elle peut être exprimée de façon interne ou externe. Mais une vulnérabilité externe, c'est-à-dire que la vulnérabilité externe, c'est c'est des situations qui rendent des collectifs d'individus, des groupes ou des individus plus vulnérables. Bon. Il y a également une vulnérabilité interne, et donc en fait les deux nous intéressent, la vulnérabilité, disons, interne, c'est celle qui est propre aux conditions même de vie des ménages ou des individus, et qui les rend vulnérables à des situations qui provoquent la vulnérabilité, en quelque sorte. Donc c'est la rencontre de ces deux vulnérabilités, externes et internes, qui pose problème. Si on a un ménage pauvre, qu'on a peu de ressources, et qu'on est confronté à aucun événement extérieur, secousse particulière, etc., bon, les choses sont ce qu'elles sont. Si en revanche, on est confronté à un événement extérieur qui provoque de la vulnérabilité, comme une maladie, comme un décès, le décès d'un membre de la famille qui ramène des revenus, ou comme la percée d'une autoroute en bas de chez vous, je fais exprès de mettre ça à plusieurs échelles, ou comme un tremblement de terre. Bon, les réactions et les capacités, là, précisément, de s'adapter à la situation, ne sont pas du tout les mêmes. Alors, la vulnérabilité interne, la vulnérabilité vue du point de vue des individus, c'est la capacité ou l'incapacité de faire face à des situations de risque externe notamment. Alors cette approche en termes de vulnérabilité, elle est pas inintéressante parce qu'elle permet de voir la relation entre des sortes d'état des individus, l'état, les conditions de vie dans lesquelles ils sont, et les changements socio-économiques. Et les changements tout court de leur environnement, et notamment d'environnement urbain, qui sont constamment en mouvement et qui sollicitent énormément les individus. Et là, un certain nombre de choses et d'atouts sont déterminants pour comprendre la résistance des individus à la vulnérabilité. Ce sont en fait leurs ressources, l'ensemble de leurs ressources, et aussi, on revient à la définition de Sen, de leur capacité. Donc, c'est les ressources et leurs capacités sont les différents moyens par lesquels des ménages évitent la crise ou essayent de s'y adapter, ou arrivent à s'y adapter. Alors, ses ressources et ses capacités en ville ou ailleurs, ce sont de plusieurs ordres. Bah, c'est les capitaux physiques qu'on détient. Quand on habite dans un, quand on n'a pas beaucoup de ressources, quand on est dans une ville mondiale où il y a beaucoup de, d'habitats irréguliers, etc., c'est peut-être avoir un bout de terre ou ne pas avoir avoir un lopin de terre, c'est déjà avoir un capital physique important, ou avoir des moyens de production qu'on possède, même petits, une vache, une charrette, quelque chose qu'on peut louer, bon. Avoir des ressources, des économies, donc avoir des ressources financières importantes, avoir épargné. Il y a aussi ce que les économistes, notamment de la Banque mondiale, ont décrit sur tous les toits comme étant le nouveau bonheur à venir des sociétés pauvres, c'est les capitaux humains, le capital humain. Et social sur lequel les individus peuvent s'appuyer. Alors, je citerai quelques exemples pour montrer qu'effectivement, les ressources économiques, matérielles et les ressources sociales des individus font partie de ces possibilités de faire face aux changements et aux risques qui nous disent s'il y a plus ou moins grande vulnérabilité. Par exemple, je vais vous parler 5 minutes d'une étude qui a été faite en Inde, à Lucknow. Lucknow, c'est une toute petite ville indienne de 2 millions d'habitants. Dans laquelle il y a eu une grosse étude quantitative sur la pauvreté dans les slums. Les slums, c'est ce que les Indiens appellent les bidonvilles, quoi. Des dizaines de slums, etc. Alors, on a demandé aux habitants de ces slums qu'est-ce qu'ils considéraient comme étant source de vulnérabilité. C'est-à-dire, qui parmi eux peut être considéré comme vulnérable ou plus vulnérable. Et cette question a été posée par des gens qui sont en train de mettre en place des programmes d'assistance alimentaire et éducative avec une grosse ONG anglaise qui s'appelle Oxfam. Bien. Alors, prenons déjà les facteurs démographiques. Les réponses des individus sont assez édifiantes. Elles disent que il y a un certain nombre de facteurs démographiques, finalement, qui produisent de la vulnérabilité. Parmi ces populations, pas toutes pauvres, mais en grande partie, dans le bidonville, certaines sont plus vulnérables que d'autres. Et celles qui sont plus vulnérables sont celles qui ont une grosse taille de famille. Donc la taille élargie de la famille est une source de vulnérabilité, premièrement. Pourquoi ? Parce qu'une grosse famille, c'est beaucoup d'enfants, beaucoup de bouches à nourrir, et en cas de perte d'emploi d'un des membres, d'un des adultes, évidemment, de plus grandes difficultés à faire face à cette situation. Je dirais que dans le secteur informel, le principal risque qui gouverne les sociétés, les familles, c'est la maladie, face à laquelle il y a peu de recours. La maladie, c'est l'arrêt définitif de la possibilité de travailler, et donc, etc. La deuxième chose, le deuxième facteur de vulnérabilité, identifié par des habitants des bidonvilles, c'est le fort ratio, le fait que dans un ménage, il y ait plus ou beaucoup plus de femmes que d'hommes. En particulier de femmes adolescentes, d'adolescentes. D'enfants. Pourquoi ? Parce que cela signifie qu'il faut dépenser plus d'argent pour marier ces jeunes filles et que le coût du mariage dans l'État Pradesh, ça représente, c'est l'État dans lequel ça se passe, ça représente environ 2 fois le revenu annuel d'un ménage de cette condition sociale. 2 fois le revenu annuel. Donc si vous avez 6 filles, ça fait quand même beaucoup d'années de travail à consacrer à leur mariage. Et ça, le mariage, c'est une obligation sociale, comme d'autres obligations sociales rituelles, qui font partie de ce qui est identifié comme étant la pauvreté. Si vous ne pouvez pas faire face à vos obligations maritales ou rituelles, vous êtes pauvre. C'est-à-dire, c'est pas simplement parce que vous ne pouvez pas bien nourrir vos enfants. La troisième chose... C'est le troisième facteur de vulnérabilité identifié par les bidonvillois d'un point de vue démographique, c'est les ménages qui sont dirigés, entre guillemets, par des chefs de famille femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes ont un moins bon accès au marché du travail que les hommes. Elles sont plus discriminées sur le marché du travail. Elles ont accès à des emplois, bon, comme partout, moins valorisés. Même si parfois elles travaillent d'ailleurs beaucoup sur les chantiers de construction, les femmes indiennes. Mais elles portent les cailloux. C'est-à-dire, c'est le travail le plus bas, le moins rémunérateur, le plus dur physiquement. Surtout, en fait, cette relation entre vulnérabilité et genre, signifie que les femmes n'ont pas accès à certains emplois parce que il y a des normes de côtoiement entre hommes et femmes qui empêchent certaines femmes d'avoir accès à certains emplois. Bon, les femmes de cette condition, c'est-à-dire souvent basse caste, etc. Hein, je ne parle pas des femmes très éduquées, machin. Et effectivement, il y a des attentes sociales par rapport au comportement féminin qui les empêchent d'avoir accès au marché du travail comme elles aimeraient l'avoir, bon, éventuellement. Alors, l'autre chose, c'est que la vulnérabilité des femmes y compris mères, etc., est liée au fait que, dans cette société, on a besoin d'une protection masculine pour accéder à un certain nombre de choses, notamment pour ne pas être, dans l'enquête, hein, je veux dire, c'est clairement attesté que pour être moins susceptible à la fois de harcèlement au travail, de harcèlement par des voisins, etc., et d'exploitation. Donc la protection masculine, soit par un mari, soit par un fils âgé, soit par, etc., est absolument essentielle pour avoir une existence sociale reconnue, sécurisée. Donc on en vient vraiment à la relation entre, vous voyez, pauvreté, vulnérabilité, et aussi sécurité humaine, sécurité individuelle. Voilà pourquoi ces habitants de slum identifient vraiment vulnérabilité et genre comme étant complètement déterminants. Et donc, en termes de politique publique et en termes de façon de répondre à cette question, à l'évidence, je ne sais pas, c'est pas le rôle de cette conférence, mais ces catégories les plus vulnérables et cette forme de fragilité-là doit être identifiée comme devant faire l'objet d'une politique prioritaire avant même de dire... On réhabilite ces slums, ces bidonvilles. Réhabiliter ces slums en laissant les femmes qui sont souvent locataires aussi, donc les deux catégories les plus fragiles, pas à l'abri d'un renchérissement du foncier, par exemple, ou d'éventuelles transformations non prévues, c'est exposer les plus fragiles à des risques d'appauvrissement supplémentaire. Je donne cet exemple parce que les principales interventions qui se font sur des quartiers de bidonville ou de slum, des quartiers spontanés, sont des interventions globales sur tout le quartier. On donne des titres fonciers, on met des infrastructures sanitaires, on apporte de l'eau. Or tout ça, ça a une conséquence, c'est que ça amène à un renchérissement du foncier, ça valorise le foncier, et donc ça produit l'exclusion ou la mise de côté des catégories les plus fragiles. Les locataires sont virés, puisqu'on peut avoir des parcelles qu'on va revendre plus facilement, et les premiers touchés, ce sont ces populations les plus vulnérables. Donc même dans les politiques qui sont des politiques sociales et urbaines, on a des effets pervers constants, parce qu'on ne prend pas en compte cette différenciation très fine des niveaux de ressources et de vulnérabilité des ménages. Voilà. J'ai peut-être trop parlé, je vais m'arrêter, non, je sais pas, parce que j'ai encore deux, trois choses à dire, mais j'ai encore deux, trois pages. Deux, trois. C'est comme tu veux. C'est comme vous voulez. C'est un peu abrupt, hein, quand même. Mais... Voilà. Alors, on a abordé à travers la relation entre pauvreté, vulnérabilité et ville... Les aspects relatifs à la vulnérabilité plutôt individuelle et des ménages ou la vulnérabilité perçue. Je voudrais faire une toute petite incursion du côté de la pauvreté perçue dans des quartiers non réglementaires, dans des quartiers dits informels, irréguliers. Donc ça provient d'une petite enquête, une enquête que j'avais faite en Égypte il y a quelques années et qui portait sur, donc ça c'est une petite note intermédiaire pour faire un petit peu relativiser les catégories, qui portait sur des travailleurs... de l'informel, justement, dans les quartiers informels. Bon. Alors, dans les quartiers dits informelle, populaire, etc. Il n'y a pas du tout que des travailleurs de l'informel. Il y a aussi des petits fonctionnaires ou des gros fonctionnaires. Il y a toutes sortes de gens. Mais les plus pauvres de ces quartiers abritent assez, on peut le comprendre assez aisément, plutôt des travailleurs de l'informel de façon majoritaire. Et dans un de ces quartiers, enfin, j'avais identifié que je demandais toujours au Caire, donc, un quartier de squat, donc un quartier d'évasion, c'est-à-dire qu'on arrive, on prend un terrain qui appartient à l'État en l'occurrence, et on le divise en parcelles, on revend les parcelles et les gens s'installent. Donc des gens achètent souvent des terrains qui ne leur appartiennent pas. Bon, donc ils sont, il y a une double fragilité là, c'est-à-dire que, je ne sais pas si, bon, c'est un peu rapide peut-être, mais bon. Bien. Donc des quartiers où il y a, sur lesquels il y a une forte insécurité foncière, hein, le statut du terrain est très précaire. Donc dans ces quartiers, puisqu'ils sont les plus précaires du point de vue du quartier, du point de vue du foncier, on a les individus aussi les plus précaires. Donc c'est les filières les plus populaires, hein, évidemment, dans lesquelles vont arriver les individus les plus avec les plus faibles ressources. Ça, c'est assez logique. Bon. Avec des exceptions. Bon. Ces populations, donc, parmi ces populations, donc on a une fraction importante de travailleurs dits de l'informel. Et je me suis rendu compte que parmi ces travailleurs, quand je leur demandais quel était leur emploi, ils ne me répondaient pas par un type de qualification ou de métier. Ils me répondaient, au début je ne comprenais pas, bon, il faut dire que je ne suis pas arabisante naturellement, j'ai appris l'arabe, je parle moitié, enfin bon. Ils me répondaient, je suis un homme qui dépend de... Bon, alors en arabe c'est azoui, ça veut dire qui est, enfin littéralement c'est un subsistant. C'est-à-dire je suis quelqu'un qui dépend, alors il y a une racine en arabe qui est razaka, c'est tirer sa subsistance ou sa pitance, sous-entendu de Dieu, enfin de la... Donc je suis quelqu'un qui dépend de sa pitance, quoi, qui est en quête de subsistance. Et les gens ajoutaient, donc je suis un homme azoui, et je travaille, je dis en arabe, al-abab Allah, c'est-à-dire à la porte de Dieu. Je suis à la porte de Dieu. Non, je ne travaille pas. Je suis à la porte de Dieu. Ou je travaille à la porte de Dieu. Ça veut dire, enfin, ça veut dire plusieurs choses, mais c'est assez simple à comprendre, c'est que la pitance, c'est-à-dire le revenu journalier de ces gens, puisque ce sont des travailleurs journaliers, dépend d'une source tout à fait incertaine et imprévisible de revenus, puisqu'ils vont se vendre sur un marché des travailleurs, notamment du bâtiment, qui se trouve dans certains cafés du Caire, ou alors qu'ils vendent, alors ils disent, je vends à l'épaule, je vends sur l'épaule, c'est-à-dire qu'en fait, ou alors je tourne. Mais on ne sait jamais ce qu'ils vendent, et on ne sait jamais comment ils travaillent. Ce qu'on sait, c'est une espèce de condition de travailleur. Mais la nature matérielle du travail n'est jamais décrite, donc en termes de qualification ou de compétence. Donc c'est toujours la nature imprévisible de ce travail qui est mise en avant, mais pas sur un ton défaitiste ou pessimiste ou etc., mais comme quelque chose d'évidence, quoi. Je veux dire, je suis à la baballa. Bon, tout le monde dans ce quartier d'ailleurs, et les gens ajoutent d'ailleurs, tout le monde autour de nous et travaille à la porte de Dieu, quoi. Et voilà. Donc, mais... me dit la femme d'un homme azoui, si on ramène du sel aux enfants le soir, même du sel, on est content. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette fierté d'avoir une activité productive, même si c'est une activité productive très épisodique. C'est en gros, les gens sont employés 40% du temps, hein, d'après ce que j'avais constaté. À la merci de tous les accidents de la vie, là pour le coup, la famille dans laquelle je restais le plus souvent, le mari, qui était maçon, Arzoï, avait été tombé d'un échafaudage, il est resté 8 mois, je ne sais pas, quelque chose comme ça, sur son lit, avec il ne pouvait pas bouger. Bon, pendant 8 mois, la famille n'avait pas de revenus. Donc les enfants, il y a un fils qui s'est arrêté d'aller à l'école, donc les conséquences sont immédiates. Un des enfants arrête d'aller à l'école et va se vendre sur le marché du travail. La femme qui ne travaillait pas, parce que bon, dans ces quartiers, les femmes ne travaillaient pas, est sortie, elle vend des petits légumes, etc. Bon, ça se faisait pas, c'était un peu un déshonneur, mais elle l'a fait. On a emprunté de l'argent, enfin bon, voilà. Alors, il y a cette idée quand même, ce que j'avais trouvé intéressant en tout cas, dans cette petite enquête, c'était que on était face à, bon, finalement, en lisant d'autres choses sur la pauvreté ailleurs, au Brésil et tout, on était face quand même à une forme de pauvreté dite intégrée. la caractéristique de cette pauvreté, c'est qu'elle n'était pas déstructurante pour les individus, puisque elle était socialisée. Ils étaient pauvres dans un milieu de gens qui partageaient à peu près la même condition. Ce n'était pas vécu comme dévalorisant. Ça, je crois que c'est très très important. C'est-à-dire qu'aux yeux des autres, aux yeux de leurs voisins, ils étaient comme tout le monde. Et ils n'étaient pas moins que rien. Ils n'avaient pas un sentiment de chute ou d'abandon. Bon, ils avaient un sentiment, non pas de chute, mais d'abandon de l'État, oui. Mais ça, c'est clair. Mais bon. En revanche, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu L'immeuble Jacobian, qui est un film splendide, moi je recommande vivement. On voit dans ce film et dans le roman aussi que un des héros là qui devient islamiste est fils de gardien et que lui souffre horriblement de sa condition de fils de gardien qu'il ne peut pas assumer face à ses camarades de l'université. Donc c'est bien dans la confrontation à l'autre, mais au niveau hétérogène, et parce qu'il habite au centre-ville, la cahute sur le toit d'un immeuble très bourgeois, qu'il est confronté à cette difficulté d'être pauvre. Mais s'il habite dans un quartier où tout le monde est gardien ou c'est beaucoup plus difficile d'accéder à certaines ressources, mais en même temps, il y a une espèce de préservation mentale et morale. Et je dois insister là-dessus, moi, c'est une petite touche personnelle. Ce qui est absolument frappant dans ces quartiers, c'est qu'avec des ressources extrêmement faibles, les gens préservent une espèce d'intégrité morale, pas morale, une espèce de confiance dans l'avenir qui est absolument incroyable. Et qui est pleine de leçons, enfin je crois pour nous en France, parce que on est souvent dans des situations où on a plus et on se plaint beaucoup plus et on n'a aucune confiance dans l'avenir. Donc je fais une petite parenthèse, mais c'est assez frappant de voir ça. Donc ville et pauvreté, vulnérabilité, quelques effets, donc ça va être assez rapide et je vais le montrer un petit peu en photo à la fin. On peut pas tout dire et je vais être très rapide. Alors, la première chose, c'est c'est le lien entre pauvreté et vulnérabilité, mais également la vulnérabilité suscitée par l'insécurité. L'insécurité, pas au sens nécessairement sarkozien, etc., mais l'insécurité globale, c'est-à-dire que l'insécurité est croissante dans la plupart des villes mondiales, ça il faut quand même le constater, c'est-à-dire que, à part les villes du Moyen-Orient et les villes arabes, où il y a une insécurité due parfois aux guerres, mais sinon, c'est très sûr, mais c'est à peu près tout, et aux villes indiennes, mais c'est vrai que les villes mondiales sont devenues globalement très dangereuses, en Afrique, en Amérique latine, etc. Donc, l'insécurité, cette insécurité fondamentale, pas une rigolade comme on a ici, une vraie insécurité où on n'ose pas sortir de chez soi, etc., comme en Afrique du Sud, par exemple, c'est effectivement, ça affecte beaucoup plus les populations pauvres que les autres. Bon, alors ceux qui se sentent le plus menacés, ce sont les riches qui sont dans des situations de fuite résidentielle, hein, et qui vont partout s'installer dans des gated communities, dans des résidences fermées. Certes, ils ont les moyens de cet enfermement, mais ceux qui sont objectivement le plus menacés, ce sont les populations pauvres. Donc c'est clair dans le cas du ghetto nord-américain, par exemple, où c'est la population qui souffre le plus de l'insécurité. Et c'est vrai aussi dans toutes les grandes villes du Sud. La population qui souffre, c'est dans les bidonvilles qu'on a le plus grand, le risque le plus élevé en Amérique latine, au Brésil, de se faire tuer, etc. Alors ça a des conséquences très importantes parce que cette inflation, cette montée en charge de l'insécurité depuis, de la violence même dans les villes, plus que l'insécurité dans les grandes villes depuis une vingtaine d'années, affecte même les politiques publiques, les politiques sociales. Non, ça, j'ai lu récemment que dans certaines ONG très actives au Brésil, elles restent locales, on ne peut plus circuler dans certaines favelas, etc. Donc il y a même une incapacité d'agir dans certaines favelas qui sont hyper contrôlées par les mafias, etc. Bon, c'est pas le cas partout, mais c'est en partie le cas. La préoccupation sécuritaire devient également dans pratiquement toutes ces villes, quelque chose qui est prédominant ou prépondérant dans la décision publique d'aménagement, qui va passer bien avant le souci d'améliorer la situation des populations pauvres ou fragiles. Les favelas elles-mêmes, par exemple, sont fermées sur elles-mêmes, mais Ça pose la véritable question de la façon dont on peut répondre et on peut se positionner par rapport à ces politiques publiques, sans dire. Bon, un sociologue brésilien racontait récemment que il suffit pas peut-être de dire c'est pas bien de faire des politiques sécuritaires, parce qu'en même temps, s'il n'y a que ça qui se fasse, à un moment donné, peut-être qu'il faut se positionner au sein de cette politique urbaine sécuritaire pour essayer de l'améliorer. En tout cas, c'est un dilemme. C'est-à-dire que le constat, c'est que les politiques sont sécuritaires, et pour autant, il est difficile de rester en dehors du débat. Bon, peut-être qu'il y a une façon de le réorienter. Ça nous concerne aussi, bien entendu, en France, les politiques urbaines, les politiques d'aménagement sont très largement sécuritaires aussi. Aujourd'hui, quand on agit, on ferme des espaces, on clôture, on ferme les parcs, les jardins, on met des digicodes, on résidentialise. 15% du budget de l'Agence nationale de rénovation urbaine s'appelle de la résidentialisation, c'est-à-dire fermer. Hein. Et comme le disaient récemment des gens de Mantes-la-Jolie, qui sont résidentialisés, vous vous protégez de nous. C'est comme ça que ça peut être interprété aussi. C'est-à-dire, c'est pas simplement vous nous protégez, mais vous vous protégez de nous. Hein, ça peut être pris de plusieurs façons. Bon, je voulais juste faire cette parenthèse parce que ça me semble être quelque chose d'assez important maintenant, même très très important. D'autre part, l'insécurité. Donc, il y a l'insécurité et la violence privée. Enfin, individuel, interindividuel, ou par des mafias. Il y a la sécurité foncière aussi. À Bombay, on a des mafias foncières, au Caire aussi, bon, voilà, qui exercent une tyrannie importante sur les populations, il faut le dire quand même, et qui sont liés, plus ils ont d'argent, plus ils sont liés au gouvernement, etc., plus ils sont protégés. Bon. Deuxièmement, on a une insécurité publique, enfin créée par le public. J'étais très intéressée de voir que dans un rapport de la Banque mondiale, pas un rapport tout à fait officiel, mais ils ont fait une espèce d'enquête auprès d'un millier d'habitants du monde. C'était un peu idiot, mais avec quelques conclusions très générales. Une de ces conclusions qui m'avait intéressée, c'était celle-ci. C'est que la plupart de ces gens pauvres, identifiés dans différents pays du monde, et notamment dans les pays dictatoriaux, bien entendu, mais pas seulement, disaient « Mais la principale source d'insécurité, c'est l'État ». C'est l'État, avec ses politiques publiques, ses politiques d'aménagement, qui sont toujours dirigées contre nous. C'est l'État, avec sa bureaucratie qui nous harcèle, qui est corrompue, qui nous demande de l'argent pour le moindre papier, qui exige des permis de construire là où on ne peut pas en avoir, etc. Donc, cette insécurité, elle est présente, et ce sentiment d'injustice vis-à-vis d'État qui ne font pas dans le social, mais qui font plutôt dans l'assistentiel répressif, elle est très très présente. Et je dirais que ce sentiment d'insécurité, il est favorisé par le fait qu'il crée cette insécurité crée de la vulnérabilité, donc externe, cette fameuse vulnérabilité dont je parlais avant, et fragilise des populations qui sont déjà pas toujours bien en point. Alors, donc j'ai parlé furtivement des autoroutes, mais bon, ça peut être un bon exemple d'insécurité publique créée pour certains intérêts privés. On crée l'insécurité pour des fractions très très importantes de population. C'est vrai aussi pour des politiques de régularisation et de déplacement. Alors, je voudrais juste dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui est très important aujourd'hui dans un grand nombre de villes mondiales et métropoles mondiales dans le monde, c'est il y a un débat au niveau international sur la régularisation des foncières, la régularisation des quartiers illégaux. Hein, 75%, ou je ne sais pas, une majorité de la population mondiale des grandes villes vit dans des quartiers irréguliers, sur du foncier irrégulier, etc. Bon, ça crée de l'insécurité, ça, pour le coup. Foncière, c'est-à-dire que ces gens ne sont pas assurés de pouvoir rester en place, concrètement. Donc, ils ont du mal à se projeter dans un avenir, etc. Face à ça, la réponse principale des gouvernements jusqu'à présent, jusqu'aux années récentes, a été principalement la démolition, la non-régularisation, voire l'éviction, ou alors une régularisation de facto. C'est-à-dire, on régularise sans le dire. Bon, ça rentre dans le droit commun, mais bon, parfois sans avoir droit aux infrastructures qui vont avec des formes de punition. C'est-à-dire que, oui, vous,
ok, on vous tolère plus ou moins dans la ville, mais vous n'aurez pas droit à l'eau, vous n'aurez pas droit à ceci, ou pas de la même qualité que les autres, etc. Bon. Donc ça, c'est partout comme ça, donc plus ou moins. Ou les quartiers qui ne sont pas sur les cartes, ou, etc. Face à cette situation d'insécurité foncière, il y a quand même des tas d'experts internationaux et puis des collectifs internationaux d'habitants, et là, j'ai en particulier les Indiens, qui ont été très, très effectifs dans leur lutte urbaine, etc., qui ont demandé, qui ont écrit des chartes, etc., à ce qu'il y ait des régularisations pour tout le monde, des régularisations foncières de l'habitat, du fond, et, bon, et des terrains. Ça a été entendu, ça commence à être entendu dans les institutions internationales, et ça fait partie des objectifs qui sont impartis maintenant au gouvernement des pays en développement, que de régulariser, c'est un nouveau credo international. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que tout ça cohabite avec énormément d'une politique totalement contradictoire, qui est une politique de déplacement, et du déplacement forcé, souvent sans compensation ou avec de très faibles compensations, parce que ces déplacements sont beaucoup liés au fait que les quartiers irréguliers dans les villes mondiales sont maintenant situés sur ces lieux de haute valeur foncière et immobilière qui sont convoités par des sociétés de diverses natures, mais également avec des capitaux internationaux, et que ce choc, cette confrontation-là, lié au phénomène de métropolisation, c'est-à-dire d'accroissement des villes, provoque en fait paradoxalement des effets de déguerpissement, d'éviction beaucoup plus forts que par le passé, au nom du développement. Par ailleurs, je dois dire qu'on détruit beaucoup. Hein. Le développement entre guillemets, ça a été beaucoup jusqu'à présent démolir pour faire des barrages, démolir pour faire des routes, démolir. Bon, et c'est des millions de gens chaque année. Hein. C'est pas des petits chiffres. C'est bon, qui sont touchés. En général, ce sont pas des gens qui se situent dans les quartiers les plus riches. Donc, ce phénomène-là, il est important. À Bombay, par exemple, l'année dernière, une centaine de milliers de personnes ont été déplacées par force. Du centre-ville pour faire un nouveau centre des affaires. Mais par ailleurs, il y a une politique de réhabilitation et de régularisation très innovante, très intéressante, mais qui touche certains favorisés parmi les irréguliers, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis plus de 5 ans ou ceux qui ne sont pas dans les zones stratégiques, etc. Oui, donc on a comme ça une espèce de dualisation des politiques. Donc c'est pas uniforme, je ne veux pas dire simplement que ça va dans le mauvais sens, etc., mais que il y a des tendances très 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 contradictoires, antagoniques dans ces villes qui sont présentes et dont il faut tenir compte. Voilà, mais je crois que je vais terminer par là-dessus. Puis non, dernier petit point, migration et ville. Je voulais juste citer le phénomène migratoire. Parce que un autre aspect dont on parle peu, peut-être, c'est, enfin, on parle beaucoup des migrations aujourd'hui, et on dit peut-être moins que les migrations, les migrations, le phénomène migratoire se concentre beaucoup dans les zones urbaines, et que il est devenu lui aussi beaucoup beaucoup plus important que dans les décennies présentes. Que si le phénomène de migration précède de loin la mondialisation, hein, on assiste à une explosion en fait de la demande migratoire des deux côtés. Alors là, je vous renvoie aux travaux de Saskia Sassen. Elle dit que elle n'est pas la seule, mais elle était la première à le dire. Il y a une migration qui alimente le circuit le plus élevé de la production globale. Dans les villes mondiales, on a des cadres supérieurs de haut niveau qui travaillent dans les multinationales, etc. C'est pas vrai seulement à Londres et à Paris. C'est vrai à Pune, petite ville indienne de 4 millions d'habitants, qui est un haut centre de production technologique, dans lequel les cadres indiens, comme à Bangalore, sont très grassement payés. Enfin, les ingénieurs indiens qui travaillent dans la high-tech sont très bien. Je dirais, gagnent quasiment le salaire d'un ingénieur européen. Bon, ça devient bon. On commence même à avoir des cadres anglais qui vont s'installer en Angleterre, travailler dans la high-tech. Bien. Donc, une migration qui alimente les circuits les plus élevés ou les plus rémunérateurs de la production globale, avec une croissance nette de la demande de cadres très bien payés. Ce phénomène-là, il n'est pas sans conséquence. Les villes se battent comme des chiens, comme des chiennes, pour attirer des cadres supérieurs. Et c'est pas simplement Marseille avec son Euroméditerranée, ou Paris, ou Bruxelles, mais c'est aussi Bangalore, c'est aussi Téhéran, c'est aussi, enfin Téhéran, bon, un peu limite, pour d'autres raisons, etc. C'est aussi Moscou, enfin, toutes les villes se battent pour attirer des cadres high-tech et branchés. Mais ces cadres, ils ont besoin d'autoroutes rapides, ils ont besoin d'hôpitaux super performants, et ils ont besoin d'un bel aéroport, et c'est ça qu'on va faire en priorité. D'accord? Je caricature, bien entendu, mais... D'autre part, on a des migrations à la fois de misère et d'espoir, et ces migrations sont en grande partie aussi alimentées par la première strate. La première strate, c'est ceux qui alimentent les circuits les plus élevés de la production globale. Mais ces cadres supérieurs bien payés, très très bien payés, qui sont dans les résidences fermées, et tout, bon, aux États-Unis, mais en Inde, ou en Égypte, ou partout, hein, au Caire, bon. Ils ont besoin d'une main-d'œuvre domestique. Ce sont des cadres dont il y a une externalisation de la fonction domestique qui est vraiment due, enfin, bon, les sociologues qui travaillent sur les migrations l'ont montré, qui est vraiment due au travail des femmes des classes supérieures éduquées, dans les pays du Sud en particulier. Et c'est ce marché du travail émergent pour les femmes des classes moyennes et supérieures éduquées qui favorise la demande en travail domestique, notamment importé. C'est parce qu'à Beyrouth, les femmes, elles sont ingénieures, certaines, qu'on apporte des femmes philippines pour travailler, pour éduquer les enfants, d'accord, dans les maisons. Et c'est parce que les femmes ingénieures... les ménages de billes actifs nord-américains n'ont pas le temps de se consacrer, externalisent leur production domestique, ils font appel à des colombiennes pour travailler chez eux. Et ce marché de la migration domestique, mais aussi d'infirmières et aussi de travailleuses du sexe, hein, enfin je veux dire, c'est un marché mondial qui est en expansion croissante et qui, il faut savoir par exemple que dans une petite ville mondiale comme Beyrouth, un quart de la population active est étrangère. Et, bon, il doit y avoir quelque chose comme, pour une ville d'un million d'habitants, quelque chose comme, je sais pas, enfin, on sait pas, il n'y a pas de chiffre officiel, mais peut-être 100 000 Sri Lankais. Hommes, en particulier, quelques hommes, mais peu. Bon. Et alors, une des questions qui se pose, c'est comment ces villes s'accommodent de ces nouveaux types de migration qui sont extraordinaires parce qu'elles viennent du monde entier, elles mettent en confrontation et en relation des gens qui n'avaient absolument pas d'univers commun. Alors dans les quartiers périphériques de Beyrouth, cohabitent, et dans les quartiers chiites de Beyrouth, hein, enfin la banlieue dite chiite, hein, la banlieue populaire sud, tout le marché locatif est réservé aux étrangers. Depuis, ça fait moins de 10 ans, hein, les gens disent ça fait 5-6 ans, les gens ont délaissé ces quartiers-là, pour aller dans des quartiers un peu mieux, parce qu'ils ont pu louer à des Sri Lankaises, des Philippines, des Éthiopiennes, qui sont bonnes, des Érythréennes, bonnes également, bon, mais aussi des Soudanais, des Syriens. Et donc toute cette population de célibataires cohabite dans les mêmes quartiers. De célibataires, en gros, les femmes plutôt venant plutôt de pays chrétiens, entre guillemets, et les hommes plutôt de pays musulmans. Donc avec des tas de questions aussi qui se posent dans la relation de ces célibataires face à face, donc face à une nouvelle vie dans des quartiers dont ils n'ont pas nécessairement les clés d'accès, face auxquels il y a une certaine hostilité aussi, et pour lesquels il est clair que les politiques sociales, urbaines, quand il y en a, ne sont pas faites du tout. C'est-à-dire qu'on fait comme cette population est absolument invisible pour les décideurs. Alors j'ai parlé de Beyrouth, mais j'aurais pu parler de tas d'autres pays, de tas d'autres villes mondiales du monde où ce phénomène est très très présent, mais volontairement, enfin ou occulté en tout cas pour l'instant. Voilà. Est-ce que j'ai quelques photos, mais bon, je peux les passer en même temps qu'il y ait des questions. Voilà. C'est une sélection absolument arbitraire. Quoi ? Oui, voilà. Bon, alors, là, je voulais montrer que dans des quartiers périurbains informels, là, on est dans une ville moyenne, Ismaïlia, merde, ça tourne tout seul, sur le canal de Suez, créé par les Français, lors du percement du canal de Suez, On a des quartiers donc informels dans lesquels on a toutes sortes d'activités. Il y a des pêcheurs qui pêchent sur le canal de Suez. Bon, c'est pas des poissons, c'est très 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 pollué, mais ça fait rien. Il y a des petits vendeurs informels. Donc en fait, ces quartiers sont aussi producteurs de bon de types de ressources. C'est-à-dire que dans les quartiers dits illégaux, on a aussi pas que de la pauvreté, mais des formes de oui, enfin par exemple ce monsieur il possède quelques bateaux et il a eu un microcrédit pour en fabriquer d'autres et donc ça a l'air d'aller bien. On a aussi des je voulais montrer que alors là si on parle de la pauvreté, j'en ai pas parlé, mais de la pauvreté dite habitationnelle, certains parlent de bon on a parlé de la pauvreté monétaire. Mais souvent, en fait, chez les urbanistes, les géographes, tout ça, tous ceux qui interviennent de façon spatiale sur les choses, on pense la pauvreté en termes habitationnels. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est avant tout le quartier pauvre, hein, qui est vu comme globalement pauvre. Or, je voulais montrer en quelques photos que, bon, par exemple, ça, c'est de l'habitat populaire illégal. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on monte à 3-4 étages dans cette ville. Mais, OK, on monte à 8, dans l'illégal complet. Et que on a du locatif, on a de la propriété, et on a aussi des terrasses qui servent avant d'être construites d'élevage. On a des chèvres, on a des tas de trucs, des poules, des canards. C'est une source de revenus vifs et de d'autoconsommation très important, la terrasse, que j'ai découvert simplement avec... Enfin, je m'en étais pas tout à fait rendu compte jusqu'à ce que je vois cette photo, parce que c'est sur toutes les terrasses, en fait. Bon, alors, là... bon, je me suis un peu plantée. Bon. Alors, la photo est complètement floue. Bon, le travail. J'ai montré travail domicile, informalisation. Cette petite fille, enfin, elle a 15 ans, quoi, travaille dans une chez elle, dans un slum, dans la bidonville de Bombay, qui est un bidonville qui se trouve dans un quartier périphérique, à Jogeshwari. Elle vit seule avec sa mère est veuve, donc elle fait partie probablement de ces ménages très vulnérables, etc. Et effectivement, c'est l'endroit le plus dénué de tout que j'ai vu là-bas. Et la gamine va à l'école, au lycée, et quand elle revient à 14h, elle fabrique ces petits colliers-là, que vous voyez, chez elle. Et tous les soirs, il y a un vendeur, un intermédiaire qui vient lui ramasser les colliers, qui la paye l'équivalent de, je sais pas, 30 centimes d'euros, un truc comme ça, bon. Et ces colliers, même que vous trouvez hein, chez tous les marchands là du coin, c'est ceux-là. Vous les achetez, je sais pas combien, 10 euros là ou 5. Bon, passons. Elle en a fabriqué 500 dans l'après-midi à peu près. Voilà, donc elle alterne, et puis elle parle bien l'anglais, en plus elle est très, très contente. Et ce qui est incroyable, c'est que l'international est à domicile. Là, vraiment, pour le coup, on est directement pris sur le marché global, dans un quartier de bidonville. Bon, alors, à Beyrouth Centre, je voulais montrer, mais ça n'en voit pas grand-chose. Hein. Je voulais montrer, bon, ça, ça a été reconstruit, mais c'est les quartiers chics de Beyrouth. Dans ces quartiers chics, il y a un, bon, on ne voit pas la photo, il y a rien. Chaque étage a sa Sri Lankaise, ou sa Philippine, ou etc. Donc le matin, moi j'habitais là, on voit tous ces balcons s'activent et les femmes commencent à se parler de balcon à l'autre. C'est-à-dire que quelquefois il y a une grand-mère qui les surveille et tout, mais elles sont. Bon, c'est très important. C'est-à-dire que c'est une population extrêmement nombreuse et extrêmement enfermée aussi. Hein. Il faut savoir, bon, ça c'est un terrain d'enquête que je suis en train de mener en ce moment. Qu'il y a un enfermement, une exploitation absolument terrible de ces femmes. Mais par ailleurs, ces femmes qui ne sont pas vraiment pauvres, parce qu'elles partent pour assurer un revenu à leur famille, elles deviennent. C'est elles qui vont être chargées. Souvent, elles sont mariées, elles ont des enfants. Hein, dans leur pays, elles partent pour des contrats de 3 ans. Elles envoient de l'argent, elles permettent de, en général, ça c'est vraiment complètement recyclé dans une activité économique, etc. Et donc ça change complètement les rapports économiques et domestiques dans les pays de départ. En l'occurrence au Sri Lanka, aux Philippines, etc. Donc dans tous les appartements nouveaux construits, on a une toute petite chambre pour la bonne, qui est en général bien séparée, avec des circuits bien séparés pour pas qu'il y ait trop de... là on a, bon enfin on voit rien, mais disons... Quelques Philippines qui sont... la moitié de ce groupe, c'est des copines, elles se retrouvent le dimanche, elles vont prier au truc évangélique, et je ne sais plus comment ça s'appelle, les born again. Elles sont, enfin bon, il y en a une qui est born again. Alors, dans un quartier informel, chiite, de Beyrouth, on a une église born again. Ça, c'est assez incroyable. Et donc, elles se retrouvent là. La moitié d'entre elles vivent dans le quartier spontané. Et les autres vivent chez leur patron, ou chez leur madame, comme elles disent. Et alors, donc, parmi ces femmes, ces deux-là, enfin, deux d'entre elles, sont des runaways, comme ça qu'elles se définissent. C'est-à-dire qu'elles ont quitté leur famille d'accueil. Elles se sont échappées. On leur a gardé leur passeport. Et elles sont sans papier, sans possibilité de retour, surtout, enfin, sans possibilité, évidemment, d'être régularisées, mais surtout sans possibilité de retour chez elles. Et elles vivent dans ce quartier illégal qui se trouve là. Donc, coincées entre rien et rien. Voilà. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, quelques photos de... Alors là, pour le coup, habitat illégal, hein, on parle de poche d'habitat et de pauvreté, mais bon, c'est tout... Les formes sont extrêmement variées entre ce qu'on voit en Égypte, qui est très endurci, très consolidé, ce qu'on va trouver, les formes extrêmes de pauvreté habitationnelle en Inde, ça n'a évidemment rien à voir. Là, c'est quand même le plus précaire, c'est-à-dire les habitats des voies de chemin de fer, les habitats des trottoirs. C'est des vraies catégories, puisque ces gens sont syndiqués. En Inde, il y a un syndicat des habitants des trottoirs. Il y a plusieurs dizaines de milliers de membres. Et il y a un syndicat des habitants des voies de chemin de fer. Hein. Bon. Il y a des bidonvilles de périphérie qui sont déjà un peu mieux. Bon. Mais sauf qu'il n'y a pas de toilettes. Bon, gros problème indien. Problème numéro un, les toilettes. Enfin, dit par les Indiens, hein, c'est pas nous qui... Bon. Mais problème sanitaire quand même. Il n'y a pas d'eau courante vraiment. Il y a des bidonvilles. Alors à l'intérieur, ça peut être très consolidé. Bon, par contre, ça reste toujours très bas. Mais c'est très entretenu. Par exemple, cette petite voie là, on ne voit pas la photo. Elle est sombre. Elle a été entièrement pavée. Elle est arrosée, nettoyée tous les jours par les habitants. Bon. Et donc là, on ne peut pas dire que la notion de pauvreté habitationnelle est véritablement un sens. C'est-à-dire que ces gens-là, on leur propose d'être logés ailleurs parce qu'il y a un élargissement de la route. C'est le plus grand projet d'autoroute d'Asie qui passe devant chez eux. Ils ont de la chance. Et ils n'ont pas du tout envie de partir dans les HLM, enfin les sortes de grandes barres qu'on leur propose à côté. Parce que dans ces grandes barres, on ne peut pas avoir d'animaux, on ne peut pas déborder sur l'espace, on peut pas faire. Bon, on est beaucoup plus contraint en termes de... Même pour avoir une famille élargie. On ne peut pas recevoir ses voisins. Pas ses voisins, c'est les gens du village, par exemple, dans les petits logements des HLM indiens. Alors que là, on peut. Parce que c'est plus flexible. Alors, par ailleurs, par rapport à ça, bon, il y a des bidonvilles absolument qui ont l'air absolument sordides en plein centre-ville. Ça, c'est une mine d'or, celui-là. Il est assis sur de l'or. Il est dans un quartier d'usine qui ferme, etc. Le foncier a un prix hallucinant. Mais il doit y avoir 500 familles sur, je sais pas, 500 mètres carrés. Enfin, c'est un truc... Bon, absolument inouï. Et les habitants, c'est une caste hein, qui fabrique, qui est de Vanier, et ils travaillent avec une ONG. Ce type-là est architecte, il travaille pour une ONG dans une école d'architecture à Mumbai. Et ils font des plans ensemble de relogement où ils vont démolir le bidonville et reloger sur place les habitants, tous les habitants. Enfin, c'est une chose qu'on n'arrivera pas à faire ici. Hein. Je ne veux pas dire que la rue ne fait pas du tout aussi bien, l'Agence nationale de rénovation urbaine. De Borloo. Bon. Ce bidonville-là, pareil, pas exactement le même système. Bidonville, 4000 habitants à l'hectare, c'est un truc de densité inimaginable. C'est 400 000 habitants au kilomètre carré. Enfin bon, regardez ce que c'est les densités à Paris, vous verrez que ça dépasse l'entendement sur un étage. Donc c'est en moyenne, il faut dire que 50% des gens dans les bidonvilles à Bombay habitent dans moins de 9 mètres carrés. Dans moins de 9 mètres carrés, les baraques, il y a 8-10 personnes. D'accord. Personne ne se tue. Enfin, il y a une qualité de cohabitation, enfin, une capacité de cohabitation, là aussi, qui... Bon, c'était assez étonnante. Et avec une ONG indienne, ils vont faire un projet de relogement. Ils font bon, des immeubles comme ça, mais entièrement, ils font le plan ensemble, etc. Et ils financent ce projet de construction par un mécanisme très intelligent et très astucieux, une récupération des plus-values foncières, enfin, qui est un système un peu à l'anglo-saxonne. Ils vendent certaines unités à des gens plus riches, puisque on est en plein centre-ville, en plein centre de Bombay, et on voit des tours au loin. Donc ça intéresse des tas de gens d'habiter là. Et cette mixité permet de financer la construction. Voilà. Et bon, je finirai sur la rénovation urbaine, justement, en France, parce que on a des quartiers qui sont des quartiers de logements sociaux. à gauche, à Poissy, et Marseille, c'est le logement social de fait, rue de la République, qui sont murés, auxquels on a, dans lesquels on a demandé à des habitants de partir, d'aller habiter ailleurs, dans d'autres cités, et cette politique rend les gens, certaines personnes, très vulnérables. Donc même s'ils ne sont pas tous pauvres, voilà, il y a des effets contrastés de, des politiques de déplacement et de réhabilitation, surtout quand on ne demande pas leur avis aux gens, quoi. Donc voilà, c'était juste pour introduire un petit, replacer un peu dans notre contexte métropolitain, parce que c'est la métropolisation aussi et la mondialisation, je pense, qui sont à l'origine de ces politiques-là. C'est parce que Poissy est devenue une ville particulièrement bien desservie par deux autoroutes, un RER, etc., que la cité gêne et qu'on veut faire un centre commercial avec des villas à 200 000 euros ou je sais pas combien, enfin, prix énorme à côté. C'est parce que la rue de la République est la rue de la République, qu'elle a été rachetée par un fonds de, en grande partie par un fonds de pension européen et américain, qu'on dit aux gens de, que ça serait quand même mieux que vieux Marseillais d'origine populaire, ils aient habité ailleurs, quoi. Donc, les pressions, enfin, parler d'une mondiale, c'est pas neutre, ça a vraiment des implications en termes de qui est capable de rester là où il habitait, et disons que ça accélère et certains changements sociaux et spatiaux de façon notable. Voilà. Je suis désolée, il est un peu tard, non ? Hop, on n'avait pas de lumière. On ne peut pas mettre de lumière. Ouais, ça serait bien.
À vous de jouer, hein. Vous avez, je suppose, des questions. Que ce soit des précisions.
Ouais.
Peut-être une question un peu plus précise sur les périphériques de Pékin.
Ouais.
Où, c'est intéressant, il y en a 8.
Pareil, mais j'ai jamais été avec eux. Donc,
enfin, je ne me le représente pas trop, mais en fait, ce que je voulais savoir, c'était comment la population a migré à ce moment-là. Est-ce que celle qui était au niveau de l'autoroute a été recalée, ou bien a-t-elle migré, comme dans certaines villes où la pauvreté se fait dans le centre? Est-ce qu'elle a migré au centre? Et les nouvelles zones périurbaines sont-elles réservées finalement à des classes qui ont des revenus plus hauts et qui puissent accéder à un nouveau logement? Ou bien est-ce que la pauvreté se répand en fait en dehors de la ville?
Je suis bien embêtée pour vous répondre parce que je ne connais pas la Chine. Donc je peux vous parler de Téhéran si vous voulez un peu. Je sais pas, Mina est pas là, non. J'ai une collègue iranienne qui devait être là, mais elle n'est pas. Du Caire ou de Beyrouth en matière de périphérique, bien, enfin correctement, un peu de l'Inde, de Bombay, mais pas de Pékin. Parce que Pékin, j'ai entendu dire qu'il y avait 8 périphériques, bon, donc c'est probablement à vérifier, mais ça doit être au moins 7 ou entre 7 et 9, quoi, quelque chose comme ça. Ce que je sais aussi, c'est qu'il n'y a pas de en Chine apparemment, mais aussi sous réserve de vérification, on donne 15 jours aux gens pour partir. Donc c'est quand même assez radical, quoi. Alors que bon, il y a quand même des pays où ça se négocie sur le long terme, hein, bon, en Inde ou ailleurs, enfin les pays, disons que là quand même il y a une corrélation assez nette entre le niveau d'établissement des, comment dire, le niveau de démocratisation des institutions publiques et la façon dont ça se déroule, bien entendu, parce que bon, j'en ai pas parlé, mais le fait d'avoir des dispositifs comme l'enquête publique, par exemple ce qu'on a ici, ou des recours, la possibilité de recours juridiques, enfin il y a des protections quand même citoyennes par rapport aux actions de la puissance publique dans les pays dans les pays de droit, dans les pays de bon. Alors il y a des pays dans lesquels ce type de juridiction est embryonnaire, où probablement il y a une jurisprudence qui va se faire. Mais bon, il y a plus ou moins de recours, et les protections et les recours sont variables. Mais c'est sûr que dans les pays... Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, dans le cas du Caire, bon, ça vous intéresse peut-être beaucoup moins, mais j'avais été surprise de voir que des tas de groupements d'habitants qui existaient tout autour du périphérique avaient fait des recours juridiques. parce qu'ils trouvaient que la décision était injuste et qu'ils demandaient des compensations, plus des indemnités. Ils étaient indemnisés en général, mais très très peu. Et pas du tout l'équivalent du coût de leur construction. Du coût de la construction, donc ils ne pouvaient pas espérer se reloger dans des conditions aussi bonnes, enfin, toute proportion gardée. Parce que ça passait surtout sur des quartiers irréguliers. Et en fait, un procès, deux procès, dix procès, la presse en a beaucoup parlé, et l'organisme national de planification territoriale est obligé de céder, c'est-à-dire qu'ils ont obligé de mettre les compensations à un prix beaucoup, beaucoup plus élevé pour pouvoir passer et faire le projet finalement, parce que sinon, c'était bloqué de tous les côtés. Donc il y a aussi des endroits où face à la pression de populaire, et là ça s'est fait relativement sans violence, on peut arriver à des aménagements substantiels, à Karachi aussi. En Karachi, ça, je connais que de lecture, parce que c'est un cas assez célèbre, qui est assez documenté, parce qu'il y a des tas d'ONG asiatiques, notamment qui travaillent sur les questions de droit, logement et tout, qui s'opposent à une grosse autoroute et urbaine. Et là, je crois qu'elle est toujours pas faite. Donc, ils sont arrivés probablement à la différer. Mais ils ont eu recours à des tas de trucs très très intéressants. Enfin, ils ont fonctionné un peu à la façon d'Amnesty International. Et c'est pas depuis hier, ça fait au moins une dizaine d'années que ça dure, cette histoire. Ils écrivaient des lettres au général Moucharraf. Alors c'est assez drôle parce que quand même, en lui indiquant pourquoi il fallait pas faire l'autoroute, etc. Bon, ils ont été très très bien conseillés, je crois aussi, et très appuyés. Mais majoritairement, ces gros projets se font avec des déplacements de gens. Alors, il y a deux systèmes. De toute façon, quand il y a des autoroutes ou tous les projets de délogement dans lesquels les gens ont quelques droits, il y a deux façons. Soit il y a des compensations financières, soit il y a du relogement. Bon. Donc, suivant les pays, suivant les traditions, je dirais, d'intervention dans le logement, s'il y a une tradition de construction de politique publique de logement, on reloge. Au Maroc, par exemple, c'est ce qui se passe. Au Maroc, il y a la voie royale qui est en train de se faire, enfin, qui devrait se faire, qui traverse les faubourgs de la Médina et qui va jusqu'à la nouvelle mosquée, la grande mosquée, à Kaza. Et ça s'appelle l'avenue royale, c'est les Champs-Élysées du Maroc, enfin, c'est comme ça que c'est présenté, je sais pas. Et là, il y a eu de l'opposition, mais les gens, en fait, sont relogés dans des cités périphériques, mais loin, quoi. Et leur principal problème, j'ai une collègue, Isabelle Berry, qui travaille là-dessus, c'est que, ils perdent leurs ressources, parce que, étant dans les faubourgs de la Médina, ils avaient accès, à des tas de ressources économiques qu'ils vont perdre. En étant loin, ce qu'il faut dire, c'est que quand on a peu de ressources, le coût de transport, c'est quelque chose de terrible, quoi. Enfin, et donc ils savent qu'ils ne pourront pas faire l'aller-retour chaque jour. Enfin, donc ça va être très compliqué, quoi, de ces cités périphériques au centre-ville pour aller travailler, par exemple. Donc c'est pas nécessairement, c'est pas mal d'être logé, ça donne vraiment un droit, mais ça dépend d'être. La question, c'est relogé où, quoi, et comment. Enfin, c'est une question pas très simple, quoi. Mais ça donne plus de droits, c'est sûr, que de recevoir de l'argent. Au Liban, où il n'y a aucune politique publique de logement, les gens reçoivent des dollars. Donc tout se passe, c'est une tractation que de fric. Mais suivant la configuration politique du moment, ça peut être bien, très intéressant, comme vraiment pas. Et donc, sur le marché, ils peuvent. Puis pareil, si ça tombe dans les mains d'un quelqu'un qui dilapide son argent, enfin, c'est pas une valeur très sûre, quoi, de recevoir une compensation monétaire. Bon,
dans ce cas, est-ce que. J'imagine que ça dépend de la zone géographique. Les personnes vont s'installer très loin de la ville, donc prennent le risque d'avoir beaucoup de mal à trouver du travail. Ou est-ce que, comme en Inde, on peut s'installer dans la rue pour rester dans le même sens?
Où ça? Tu voulais dire où? Où est-ce qu'on peut rester dans la rue? Je n'ai pas compris.
J'ai été à Bombay, je longe un pont et je vois des dizaines de gens dormir à côté des voitures dans un parking. Donc, comment ça se passe?
On parlait des gens délogés, c'est ça? Mais les gens délogés là dans les dernières opérations de déguerpissement, je sais pas où est-ce qu'ils ont été. J'en ai vraiment aucune idée. Dans les opérations de déguerpissement là pour faire le nouveau centre des affaires, je sais pas du tout. C'est probable qu'ils ont alimenté les sans-abri, les habitants des trottoirs, qu'ils ont refait. Bon, ils ont pas été. Eux n'ont pas reçu de compensation, ils n'ont rien reçu quoi. On leur a détruit leur baraque et voilà quoi. Je peux pas dire, j'en sais rien. Mais c'est assez probable, oui.
Concernant la présence de populations riches, de cas pas pauvres dans certaines villes, vous en avez parlé, je ne sais pas si vous avez des chiffres, dans quelle proportion globalement il y en a, et surtout j'ai du mal à comprendre, à part le critère affectif du quartier dans lequel ils sont, ce qui pousse les gens à rester dans ce quartier.
En fait, ça dépend peut-être de quel type de quartier. C'est pour ça que j'ai montré quelques photos vite fait. Mais ça dépend probablement beaucoup du type de quartier dont on parle. Parce que le bidonville, vraiment, le vrai bidonville, là, comme le dernier que j'ai montré en Inde, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens de cadre moyen, quoi. Non, c'est vraiment très dur. Il y a des rats partout, ça rentre dans les habitations. C'est vraiment... Enfin, bon. Mais... des quartiers irréguliers, même les quartiers des bidonvilles semi-consolidés sont tout à fait habitables. Je veux dire, c'est pas bon, il manque les infrastructures sanitaires de base, mais habiter au centre-ville de Bombay, c'est pas nécessairement beaucoup plus facile non plus, pour des tas de raisons. Les logements sont tout petits. Oui, donc il y a des raisons affectives. Il y a le fait que dans ces quartiers, on peut parfois avoir une grande maison quand c'est en périphérie, alors qu'on peut pas l'avoir en centre-ville. Dans ces quartiers, en fait, dans les quartiers périphériques, les bidonvilles périphériques, paradoxalement, les habitats sont plus grands, puisque les gens ont acquis pas acheté le terrain, ils l'ont squatté, ça permet d'avoir des activités productives. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Alors, il y a un quartier qui est très connu en Inde, enfin, à Bombay, qui s'appelle Dharavi. Dharavi, on dit que c'est le plus grand bidonville du monde, s'il est indien déjà. Dharavi. Et on ne sait pas trop combien il y a d'habitants, mais autour de 600 000, 700 000, enfin bon. Et en fait, dans la vie, il y a des coins terribles, et puis il y a des coins absolument mignons, quoi. On a presque, pas envie d'y habiter, mais bon, bien entretenus, etc. Et à Dharavi, on peut comprendre que une petite bourgeoisie locale, en particulier d'entrepreneurs, puisque c'est un bidonville très productif, où il y a des milliers d'activités productives. Je sais pas, j'avais des chiffres là, mais c'est sidérant. On fabrique de l'or, des matières presque plastiques, du cuir, quasiment tout l'alimentaire manufacturé de Bombay se fabrique là, du dentifrice, enfin bon. C'est une ville industrielle, quoi. Dharavi, mais dans des micro-structures. Il y a tous les potiers aussi de Bombay. Enfin bon, et donc, c'est une base économique. D'abord, il y a la main-d'œuvre qualifiée pour ça. Si vous êtes un petit entrepreneur, c'est là que vous allez résider parce que c'est là que vous avez l'accès à la main-d'œuvre et puis l'espace de travail. Donc, l'intérêt de ce type d'habitat, et c'est pour une des raisons pour lesquelles transformer ça en bar n'est pas très intéressant, c'est que c'est un habitat flexible. Donc, qui permet de faire, dans certains endroits, d'avoir des activités de production, quoi, qui sont... Et puis, c'est Dharavi, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a au moins une trentaine d'entreprises qui sont des entreprises de sous-traitance pour des entreprises mondiales, quoi. Donc, en plein bidonville, mais c'est un bidonville intermédiaire, je dirais. C'est pas le... Bon, il y a plein de catégories, quoi. Il a plus ou moins l'eau. Bon, alors, l'autre raison, c'est qu'il y a, ce qu'on dit généralement dans les bidonvilles, il y a du clientélisme. Il y a les notabilités locales qui développent des formes de clientélisme très fortes. Et je l'ai lu beaucoup en Inde, mais je connais pas l'Inde. Enfin bon, je peux pas vraiment en parler. En tout cas, en Égypte, c'est assez clair que dans les quartiers précaires, il y a des gens qui sont devenus des notabilités de quartier parce qu'ils ont un peu d'argent, parce qu'ils ont la capacité de faire travailler des gens chez eux, si c'est des entrepreneurs, par exemple, ou etc. Parce qu'ils alimentent. Par exemple, ils vont construire des mosquées. Les mosquées en Égypte se construisent, sont toujours financées d'abord par des gens qui ont de l'argent, qui habitent le quartier. Et puis ensuite, il y a des collectes. Mais parfois, elles sont simplement financées par monsieur un tel. Donc, on se donne à voir comme notabilité locale respectable. Et, et, Puis après, si tout va bien, on rentre dans le parti, au parti. Bon, en général, il n'y en a qu'un. Enfin bon. Voilà. Et puis après, on se fait élire. Bon, enfin, ça, c'est si on est dans un gros quartier, on devient. Donc c'est vraiment. Il y a des formes de clientélisme, de relations patron-client, parce qu'on ce qu'on appelle des relations patron-client dans les bidonvilles qui sont très fortes. Et ça, bon, c'est aussi. On raconte ça aussi en Amérique latine, mais je connais pas. Enfin, c'est de lecture, quoi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, enfin, je pense avoir répondu à la question. Mais aussi parce que aussi il faut voir que c'est des sociétés, je parle de sociétés humaines et économiques, dans lesquelles les rapports d'interconnaissance et peut-être de solidarité, c'est pas bon, ils sont probablement forts parce que c'est une nécessité impérative, mais il y a aussi beaucoup d'entraide obligée, c'est-à-dire que par exemple si vous avez des enfants en bas âge. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'école avant 6 ans. Enfin, je sais pas. Bon, alors où est-ce que vous les faites garder? Enfin, je veux dire, vous êtes obligé d'avoir votre mère, concrètement, votre mère à côté. Donc, vous êtes obligé de rester dans le quartier. Via la proximité spatiale est rendue nécessaire et impérative par l'absence de ressources ou par même par des ressources intermédiaires. Il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir accès à une crèche pour prendre quelqu'un chez soi, etc. Enfin, parce qu'il y a un déficit de biens collectifs. Donc la communauté ou la famille et etc. supplée d'une certaine façon à ça.
Au niveau de la proportion, enfin, j'imagine que ça va de ça part de zéro et en fait que enfin, c'est extrêmement variable, mais j'imagine qu'il y a un maximum, enfin, ça peut aller jusqu'à combien
de proportion de gens riches dans les bidonvilles? Ça dépend de quoi on parle. J'en ai aucune. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle riche. Je peux pas dire. Ouais. Ah oui, alors, par exemple, au Caire, je peux pas. Alors, au Caire, dans les quartiers dits, alors là-bas, on les appelle aléatoires. Dans ces quartiers populaires, donc, alors il y a plusieurs, il y a deux catégories, il y a les bidonvilles de Béonville, mais il y en a très peu, bon, très très peu. Il finira bientôt par y en avoir plus à Paris qu'au Caire. Je fais une parenthèse perfide. Il y en a eu plus à Paris qu'au Caire, ça c'est sûr, les bidonvilles, dans les années 60. Ensuite, il y a l'habitat non réglementaire de squat. Alors ça, c'est le bas de gamme, la filière populaire la plus basse, etc. Donc là, c'est quand même des conditions d'habitation pas géniales, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, etc. Et là, il y a peu de petits riches, mais il commence à y avoir parce que il commence à y en avoir dès qu'il y a des infrastructures qui se mettent en place, c'est des populations nouvelles qui arrivent. Si c'est des quartiers bien situés, il peut y en avoir jusqu'à, n'importe quoi. C'est très difficile, peut-être un tiers à certains endroits, plutôt dans des immeubles enduits ou bien construits. Et puis, il y a des quartiers proches, bien desservis, notamment par le métro ou par les bus, qui sont des quartiers dits aussi informels, mais attention, on ne peut pas dire des bidonvilles. Enfin, par exemple, en Égypte ni au Maroc, on ne peut pas dire des bidonvilles. Enfin, il y a des bidonvilles au Maroc, mais comme en Tunisie, c'est des quartiers irréguliers. C'est 80% de la construction de la ville. Donc, dans 80% de la construction, vous allez nécessairement trouver les classes moyennes aussi. Une partie des classes moyennes. Aujourd'hui, les jeunes ménages égyptiens, si l'homme est biactif, mais catégorie intermédiaire ou ouvrier, etc. Bon, ils peuvent pas se loger au Caire, quoi. C'est clair, ils sont logés dans les périphéries informelles. C'est le rêve, d'ailleurs. Enfin, certaines deviennent presque rêver, quoi, parce que elles sont pas si mal que ça. Et donc, dans certains quartiers intermédiaires, semi-régularisés, on a probablement moins la moitié de la population qui est vraiment des petits employés, des fonctionnaires, des ouvriers de l'industrie, des gens qui vivent correctement, quoi. Qui vivent correctement, qui ont quasiment toujours les enfants vont à l'école, etc. Qui arrivent à peu près à se soigner, et bon. Et donc, ça rend difficile de parler vraiment de bidonville dans ces cas-là, quoi.
Quelle différence vous faites entre la ville en ville et les quartiers irréguliers? Ensuite, est-ce qu'il y a des phénomènes autres que le désertissement, par exemple, de plus doux, où les populations aisées remplaceraient les populations plus pauvres?
Oui, bidonville, en fait, c'est pas une entrée par le. L'entrée, c'est pas similaire à bidonville, c'est une entrée par les matériaux de construction. précaires, hétéroclites, etc. C'est une définition française, enfin une définition si on veut, hein, qui vient du Maroc. Enfin, on parle d'abord des bidonvilles au Maroc, assemblage hétéroclite d'habitations en tôle, etc. Dans la terminologie anglo-saxonne, on ne parle pas de bidonville, on parle de slum. Slum, ça veut dire taudis. Et donc, ça incorpore aussi l'habitat dégradé de centre-ville, de toutes les centres-villes des villes pauvres, quoi, enfin, plutôt pauvres. Bon. Et habitat informel ou illégal, bon, c'est pas terrible non plus. Il faudrait dire habitat peut-être de création populaire, ou je sais pas, c'est tout l'habitat qui est créé en dérogation à la réglementation existante. Alors, soit le foncier, soit la construction. Le foncier, c'est bon le squat ou l'invasion de terrain, c'est-à-dire qu'on prend un terrain qui ne nous appartient pas, en gros. Et donc ça existe beaucoup, surtout bon dans plein des pays d'Amérique latine, mais partout. Enfin, ça. Et l'autre versant, c'est on prend pas la propriété d'autrui, enfin pas le terrain d'autrui, mais ça souvent des terrains vacants, hein, faut dire. En Amérique latine, les squats, c'est des terrains de grands propriétaires qui sont absentéistes. Mais ça peut générer vraiment beaucoup de... Alors là, pour le coup, beaucoup de violence, parce que les propriétaires en question, ils sont pas contents, ils sont puissants, ils ont de l'argent, et ils sont armés. Donc, ça fait du grabuge, en général. Et... y compris à la campagne. Bon, et sinon, à part le squat, il y a... le fait d'avoir une propriété légale, et puis de faire un lotissement, c'est en fait l'équivalent de un peu des lotissements défectueux qu'on avait en France, au début du siècle, quoi. C'est-à-dire que on fait un lotissement avec un géomètre ou comme ça, hein, sur un bout de feuille. Enfin, ça dépend. Il y a plein de façons de faire un petit lotissement, soit progressif, soit d'un seul coup. C'était légal. Pourquoi ? Il y a plein de raisons pour lesquelles le lotissement était légal, parce qu'il n'est pas conforme aux normes d'urbanisme en général, mais pour différentes raisons, parce que l'endroit n'est pas constructible ou parce qu'on n'a pas payé les bonnes taxes ou je sais pas quoi. Bon, première raison. Ensuite, deuxième raison, les normes urbaines du pays sont pas respectées, c'est-à-dire que tout ce qui est largeur des rues, gabarit, etc., ça existe, n'est pas respecté dans les constructions, donc la construction est illégale. Donc il y a trois strates. Donc en fait, il y a des niveaux aussi des illégalités, il y a des cumuls à certains endroits qui sont plus ou moins forts. Le plus embêtant, c'est quand même l'insécurité foncière, c'est-à-dire le fait que le terrain soit pas en propriété. Donc c'est parce que là, on a une menace de récupération par les propriétaires, surtout si c'est le propriétaire et l'État, et que l'État a un peu de moyens.
C'est ce qui se passe en France, en fait, dans la proposition là, de vendre des maisons en France, des pavillons sociaux avec des prêts à zéro, etc. C'est-à-dire que les gens achètent d'abord leur maison, puis des crédits, puis de façon que le prêt ne leur appartient pas. Et qu'une fois qu'ils auront payé leur maison, ils pourront commencer à acheter le sol.
Ah oui.
Je sais pas, c'est passé à la tête il n'y a pas très longtemps. Donc on imagine bien, dans ce que vous dites, la perversité du système, le jour où les gens n'arrivent plus à finir de payer leur maison. Ou bien ils finissent de payer leur maison, il se passe, comme vous dites, des choses de vulnérabilité venues d'extérieur. Et qu'ils ne seront jamais propriétaires de rien. C'est-à-dire que voilà, ils auront payé un loyer finalement pendant 30 ans, 20 ans, sans pouvoir rien léguer. Donc, quand on dit léguer, c'est pas entier. Mais on voit bien comment le fruit de leur travail, etc., est investi. En fait, c'est un super location, quoi. Un loyer.
Ceci étant, les juristes qui travaillent sur le droit de la propriété, là en France et en Afrique, etc., dont certains de nos collègues de la Villette, Jean-François Trébillon, Gustave Massia, qui est économiste, etc., Alain Durand-Lasserre, enfin, on a quelques grands experts quand même de la question, montrent que l'accès au droit peut se faire sans droit. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que régulariser, c'est-à-dire récupérer véritablement le droit dans ses formes absolument légales est un leurre, ça marche pas. Enfin, non, ça n'a jamais marché dans les pays du Sud, en tout cas, ou très peu, marginalement. De la même façon que... Et donc, il pourrait y avoir peut-être des formes de sécurisation sans avoir le droit complet. En fait, il faudrait arriver à imaginer qu'on puisse quand même donner une sécurité foncière de 99 ans, ça peut être les bons emphytéotiques, ça peut, il y a plein de façons de donner de la sécurité foncière, sans donner nécessairement l'accès au papier, je suis propriétaire, je peux revendre.
90 ans,
hein. Mais c'est combien?
Ils payent leur maison, ils sont plus payés, ils sont expulsés, c'est racheté.
Oui, mais les baux amphithéotiques, par exemple, en France, ça existe. Il y a des baux amphithéotiques, il y a un système de baux.
Ils ont plus payé le sol, à partir du moment où ils ont pu finir de payer la maison. Ils ne peuvent plus continuer parce qu'on arrive à un certain âge, les revenus, ce n'est pas identique. On ne peut pas contracter un autre crédit pour payer le sol.
Mais le problème en France, c'est qu'effectivement, on est dans ce piège de l'accès à la propriété. C'est vraiment un piège. C'est-à-dire que. Économiquement, pour les personnes qui ont des revenus les plus...
Les anciens HLM autour de Paris qui ont été vendus au privé à des prix faramineux, les qui sont pas loin du bon quartier, et il y a des gens qui ont été très d'apprendre, car anciennement, c'était des HLM, ils n'ont jamais dans un HLM, c'est... Bon, il y a ça, ça existe, on peut très bien imaginer aussi, c'est des constructions... subventionné par l'État, par les fonds publics, etc., avec tous les aides de l'État, etc., soit assez rapidement, je fais exprès, ça ne m'étonnerait pas que ce soit racheté justement par des gens qui en auront les moyens et que ce ne soit plus destiné à ceux qui en avaient besoin d'origine. Donc, voilà quoi, c'est tout ça, c'est.
J'ai dû prendre là. Peut-être une question, j'ai une question sur la différence entre politique sociale et des politiques urbaines. Où passe la limite? Par exemple, la politique du logement, est-ce que c'est... Parce que je peux distinguer nettement les deux, et je crois que c'est pas du tout la même chose, mais en même temps, je vois à peu près ce que ça peut être, mais je vois pas le...
Ce qu'on appelle les politiques sociales, c'est tout ce qui concerne le système d'assurance, vieillesse, chômage, sécurité sociale. Voilà, donc ça c'est les politiques sociales, en gros. Enfin, bon, ça, je vais vite, mais bon, ça peut être plus élaboré que ça, évidemment. La politique urbaine, la politique du logement, c'est à mon avis, enfin, je sais pas, si je parle sous contrôle de notre ami Régnier, il me semble que c'est un entre-deux entre la politique sociale et la politique. Urbaine, non ?
La politique urbaine, ça serait de la politique sur l'espace, sur les...
On parle de politique du logement, alors peut-être que j'aurais dû dire, il y a la politique sociale, les politiques du logement et les politiques urbaines. Politique urbaine, c'est décider qu'on va, revaloriser tel et tel quartier, ou empêcher la construction, on va faire un plan local d'urbanisme en France, et on va déterminer quelles sont les zones constructibles, les zones qui ne sont pas, les zones à protéger, les plans de circulation, voilà. C'est raisonner sur un plan spatial, alors que la politique du logement n'est pas nécessairement spatialisée. Elle définit des outils économiques d'intervention, essentiellement, quoi. Ouais.
Est-ce que vous avez encore des questions?
Non, mais je vous remercie.